Bon midi, les amis. Déjà midi 2 minutes. Ouf, le midi, j'ai le taux. On va dire le midi Pablo. Ça va pas bien pour notre ami Pablo Rodriguez. Ça continue de débouler. Des textos incriminants qui ont sorti ce matin par le bureau d'enquête de Québécois. Là, il est obligé de caller un point de presse pour midi 45. Évidemment, vous comprendrez qu'on va vous présenter une majeure partie de ce point de presse-là tout à l'heure en direct. Et là, il y a l'ancienne chef de cabinet Geneviève Hines qui vient de réagir. Donc, je vais commencer de la bonne façon en vous disant 418-971-1021 pour réagir, en vous disant qu'on est disponible sur l'application Boulevard 102.1, sur la web radio au boulevard.fm et sur twitch.tv/BLVD/FM. Deuxième chose très importante à faire, je vais saluer Pascal CV. Comment vas-tu, Pascal CV?
Ça va.
Oups, j'ai ouvert ton micro. Moi?
Ça va très bien, bon, merci.
Hey, là, Pablo me déstabilise, non, c'est vrai.
Non, mais c'est le Parti libéral, je trouve, qui en souffre encore plus que Pablo Rodriguez. Il était au courant de quoi, on le sait pas. Anthony Niacarini va nous offrir une super analyse dans quelques minutes.
C'est
mais
clair.
Pas facile.
Non, exactement. Est-ce que tu as ce que Geneviève Hines vient de publier?
Exact. Juste avant de rentrer en onde, j'étais là-dessus, tu le sais bien. Donc, Geneviève Hines, ex-directrice cabinet de Marois Risky, qui s'est fait montrer la porte par Marois Risky sans avoir demandé la permission et ou avoir laissé, en fait, Pablo Rodriguez prendre cette action-là, sinon ne pas la prendre, a commenté il y a quelques minutes la situation. Elle dit qu'elle est, et je cite, okay, je suis évidemment blessée par cette situation, d'autant que je suis convaincue que rien ne justifiait mon congédiement. J'ai l'intention de me défendre vigoureusement et j'évalue tous les recours à ma disposition. Geneviève Hines, ex-directrice cabinet de Marois.
Donc, ça continue de brasser. Ça fait suite, justement, à la déclaration de Pablo Rodriguez ce matin où il mentionnait les allégations publiées aujourd'hui par des allégations publiées dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, sont graves parce que nous prenons cette situation extrêmement au sérieux, que nous voulons faire toute la lumière. J'ai demandé au président du Parti libéral du Québec de mandater une firme externe et entièrement indépendante afin de mener une enquête complète, analyser l'ensemble des faits et établir clairement les conclusions qui s'imposent. En parlant de ça, ben ça me fait penser, on va s'en aller directement au...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Niacarini.
Antonin Niacarini en direct de Rimouski. Anto, on s'attendait à une petite semaine tranquille en politique. Christian Dubé est allé se faire d'Oraquin en Floride. Les gens travaillaient dans leur circonscription. Puis là, pataf, catastrophe libérale hier.
Écoute, c'est une énorme bombe, là, cette histoire-là. Hier, on pensait que c'était une histoire de bisbille entre Marois Risky et, j'ai envie de dire, la gang de Pablo Rodriguez. Mais là, on enlève les couches de l'oignon une après l'autre et c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple conflit de personnalité, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Le Journal de Montréal, le Bureau d'enquête de Québecor, a sorti des captures d'écran de textos qui font mention de paiement de 100 $, des brownies, comme ils disent dans cette discussion.
Mais des brownies, c'est pas des petits gâteaux, ça?
Ah non, t'es naïf. Ah, il s'agit de 100 $. Hey! Donc, 100 $ qu'on aurait payé à des gens en échange de leur vote pour Pablo Rodriguez. Donc ça, premièrement, c'est complètement illégal. Évidemment, vous ne pouvez pas être payé pour voter pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir quoi que ce soit en échange de votre vote. Et il n'y a personne d'autre qui peut payer pour vos cartes de membre non plus. Hein. Mm-hmm. Sachez-le, de payer pour la carte de membre d'un parti politique pour quelqu'un d'autre, ça va à l'encontre de la loi électorale, évidemment. Là, quand on apprend ça ce matin, on comprend un peu mieux pourquoi tout le monde était bardé d'avocats là, hier. On n'était plus seulement dans des questions de diffamation et de réputation liées à de la bisbille. On était carrément dans des affaires de malversation. Il y a des allégations très graves qui circulent en ce moment. Et ce matin, Jonathan Trudeau, là, à l'antenne du 98.5, s'est avancé sur des noms. Donc, les gens qui discutaient dans ces captures d'écran de texto, selon ses dires et selon plusieurs sources, là, il a quand même dit qu'il avait une dizaine de sources, c'était la députée de Chomedey, la députée libérale Sona Lakoyan-Olivier.
Bon, jusque-là, une députée libérale, ça va, c'est les libéraux. Elle a appuyé Pablo Rodriguez, elle veut que Pablo passe. Fait que là, bon, non, c'est de la corruption libérale.
Écoute, je te trouve bien à l'aise avec ça, mais oui, jusque-là, ça peut toujours aller. Mais le deuxième nom qui a été avancé, là, selon les sources de Jonathan Trudeau, c'est une députée caquiste. Alors là, tu te dis, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis que l'histoire est très compliquée, là, de nombreuses couches. Donc, il s'agirait d'Alice Abou-Khalil, une députée de Laval, la circonscription voisine de celle de Mme Lakoyan-Olivier. Depuis tout ça, depuis ce matin, les deux députés ont publié des démentis. Donc, les deux députés démentent avec véhémence que ce sont elles qui sont dans ces discussions texto. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'article de journal, là, c'est écrit dans un franglais épouvantable. J'avais les yeux qui saignaient. Il y a une enquête du Parti libéral qui a été déclenchée aujourd'hui, mais ça mériterait quasiment une enquête de l'OQLF aussi, cette affaire-là, c'est terrible. Mais bon, du côté de la CAQ, on dit qu'on n'exclura pas Mme Alice Abou-Khalil du caucus parce qu'elle nie vraiment en bloc ces allégations-là. Donc, évidemment que ça rajoute du croustillant à l'histoire, mais il y a tellement de sous-histoires dans cette histoire-là qu'on a du mal, hein, des fois, à se dire, écoute, c'est quoi le nœud de l'affaire, finalement? Parce que même j'ai des gens, des sources libérales qui me disent que cette histoire de vote qu'on a payé, des gens qu'on a payé pour voter pour Pablo Rodriguez, ça n'aurait pas nécessairement un rapport avec le congédiement de Geneviève Hinds. Bon, j'ai de la misère à croire ça. Mais hier, là, la faute grave que Marois Risky prétextait pour le congédiement de Geneviève Hinds, c'était liée à l'utilisation de fonds publics à des fins partisanes. Ça veut dire que tu prends ton budget, toi, tu as un cabinet là, à l'Assemblée nationale de l'opposition officielle, c'est de l'argent public là, qui paye des salaires. Mais là, toi, tu as pris ce budget-là et tu l'as utilisé pour des activités du parti, donc des activités partisanes, et c'est interdit. Il y a plusieurs partis au fil du temps qui ont été pris à faire ça, le PQ, la CAQ aussi, en passant. Là, et j'ai des souvenirs de ça, des gens qu'on a payés pour faire du travail partisan, mm-hmm. mais avec des fonds publics. Et donc pour... ça, c'était ce que Marois Risky a dit.
Oui, voilà. Et pour fin de comparatif, c'est exactement pourquoi Marine Le Pen en France ne peut oui. plus se présenter. C'est parce qu'elle a pris de l'argent fournie par l'État et elle s'est payée des gens qui ont travaillé de façon partisane pour aller faire sortir exact. Le vote, pour justement créer de la visibilité pour le parti, alors que ça doit servir pour de la recherche et du travail parlementaire.
Exactement. Puis quand tu veux faire des activités partisanes, cet argent-là, c'est l'argent des dons. C'est les dons que tu vas ramasser auprès de tes militants et des électeurs qui sont censés servir à des fins partisanes. Mais évidemment, il y a plein de choses qui circulent. Les rumeurs, ça n'arrête pas. J'ai des textos dans mon cellulaire. C'est très difficile de déterminer le vrai du faux. Mais il faut qu'on parle de comment Pablo Rodriguez lui-même a réagi face à tout ça. Parce que c'est son premier test de leadership, vraiment, à Pablo Rodriguez. C'est une crise. Et ces textos-là, ils circulaient depuis plusieurs jours déjà. Donc, là, aujourd'hui, on fait un point de presse, tralala, on nous annonce une enquête interne au Parti libéral là-dessus. Il y avait des informations qui étaient déjà en main. Moi, je dois dire, là, Jeff, que je trouve qu'ils n'ont pas été très proactifs. Là, on attend, dans le fond, quelque chose sort dans les médias et on réagit par la suite. C'est difficile de ne pas poser l'hypothèse que Marois Risky et Geneviève Hinds avaient des désaccords sur la manière de gérer cette situation-là quand on entend des allégations comme celle-là. Et c'est pas évident à gérer quand c'est juste des allégations puis que la personne nous dit « Non, c'est pas vrai ce que vous entendez. » Par exemple, cette députée de Chomedey là, qui dit que c'est pas elle dans les textos. Est-ce que tu l'exclus le temps qu'il y ait une enquête du DGE et l'enquête du parti? Parce qu'il y a un enjeu, si c'est pas vrai, de finalement salir sa réputation. Mm-hmm. Donc, c'est quand même délicat. Mais du côté de Pablo Rodriguez, on a vraiment décidé d'y aller un peu de manière réactive et on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de transparence de sa part.
Antonine, dans les réfutations, OK, d'accusations actuellement, c'est vrai, comme tu as dit, on est catégorique, là, on réfute. On dit qu'on n'a rien à voir là-dedans, que ce ne sont pas nos textos, que ce ne sont pas nos affaires. Est-ce qu'on est dans, une joute politique en ce moment pour essayer de se dissocier, mais en même temps, ça pourrait avoir des impacts très, très forts au niveau de la justice de nier ça en ce moment si jamais il y a des preuves comme quoi elles ont effectivement ces deux députés-là fait des niaiseries politiques, là, puis ça, c'est mon mot est pesé, là.
Ben, t'as 100% raison. C'est que des fois, quand tu es en gestion de crise dans ce type-là, c'est que les enjeux juridiques entrent en contradiction avec les enjeux politiques. C'est-à-dire que, idéalement, quand tu fais de la politique, tu veux être transparent, sortir toute la vérité rapidement parce que tu veux pas que ce soit un supplice de la goutte. Hein? Là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à tous les jours, il va y avoir des petites informations nouvelles qui vont sortir dans le journal. Il y a une autre source qui va parler. Là, on tombe dans le supplice de la goutte. Bien, une bonne gestion de crise, c'est de dire, écoutez, là, on va faire toute la lumière là-dessus. Moi, je vais vous donner toutes les informations. Je vais collaborer avec les DGE. C'est inacceptable, les gestes qui ont été posés. Puis on va s'assurer que les gens qui ont fait, s'il y a eu des gestes, que les gens soient punis. Mais là, entre en jeu, évidemment, les questions juridiques. C'est-à-dire que quand je lis les réfutations des deux députés, bon, premièrement, je trouve que le langage est très similaire entre les deux publications, entre Alice Aboukhalil et Sona Lakoyan. J'ai l'impression que des avocats sont passés là-dessus. Je vous le dis, là,
d'après moi, il y a deux phrases qui sont pareilles. Alors, assurément que ça a été une consultation. En tout cas, de ma part, je suis d'accord avec toi, là. Si deux phrases sont exactement pareilles dans leur témoignage, probablement qu'il y a un petit calcul d'avocat derrière.
Puis, tu sais, hier, Marois Risquier est sortie de la rencontre, là, de la fameuse porte de laquelle on parlait hier, Jeff, et elle a dit « j'ai pas de commentaires à faire ». Et c'est extrêmement rare que des politiciens vont répondre ça, à moins que ce soit par maladresse, parce que ça a l'air fou. Ça a toujours l'air très, très grave quand quelqu'un dit « pas de commentaires ». Mais probablement que c'était un conseil d'avocat. Et aujourd'hui, on comprend mieux aussi pourquoi là, on n'avait pas tant de commentaires à faire, parce qu'on est vraiment dans des allégations extrêmement graves d'avoir payé des gens pour voter pour Pablo Rodriguez. Évidemment, un paquet de questions là, qui demeurent. Qui était au courant? Qu'est-ce que Geneviève Hinds savait? Est-ce que son congédiement a un lien avec tout ça? On a essayé de balayer sous le tapis, puis on pensait que peut-être qu'on allait s'en sortir en faisant juste mettre la directrice de cabinet à la porte. Donc, pour l'instant, ça paraît très, très mal là, de la part de la gestion de Pablo Rodriguez.
Bonne gestion de crise, Antonine, puis je sais que tu donnes des formations là-dessus. Est-ce que Pablo Rodriguez aurait dû sortir dès la fin de la semaine dernière, quand il était au courant de ces textos-là, et dire « j'ai mandaté le DGE pour faire la lumière là-dessus, c'est l'instance démocratique qui fait ce type d'enquête-là. S'il y a lieu, l'UPAC va s'en mêler et jamais on ne va tolérer ça au Parti libéral? »
Ben oui, mais c'est sûr que c'est difficile. Pensez-y, là. Tu dis, moi, je vais sortir proactivement. Je vais par exemple, convoquer une conférence de presse. Puis là, personne n'est au courant encore de ça, mais là, je vais dire, j'ai eu vent qu'il y avait eu peut-être des gestes répréhensibles qui ont été posés. Je ne pense pas que c'est le cas, mais je veux m'assurer de faire toute la lumière là-dessus. Ben, c'est sûr qu'entre la peste et le choléra, comme on dit, là, entre deux affaires, pas le fun, c'est la meilleure des stratégies. En gestion de crise, tu l'as dit, c'est une de mes expertises, la gestion de crise. Il faut que tu dises toute la vérité le plus rapidement possible et toi-même. C'est comme ça que tu réussis à t'en sortir. Et c'est pas facile, toujours. La vérité n'est pas toujours le fun à dire, là. Mais c'est toujours préférable que le supplice de la goutte qu'on voit. Là, ça fait seulement deux jours et c'est catastrophique. Puis, je veux juste rappeler. Hier, Pablo Rodriguez a dit « Moi, j'ai tout le caucus derrière moi. » Et il nous a jamais parlé de ses affaires de texto, là, et de tout ça, alors qu'il était très au courant. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on revisite ses propos d'hier, puis on se dit « Ben là, franchement, il y a un manque d'honnêteté ici. » La transparence s'arrêtait de dire « Écoutez, il se passe ça, voici, on va faire une enquête. » Et l'enquête, ben moi, j'aurais aimé qu'elle ait été déclenchée la semaine passée, quitte à ce que ça... Peut-être que ça n'aurait pas été annoncé, mais qu'aujourd'hui, on nous dise « Effectivement, on était déjà là-dessus parce que c'est quelque chose qui est inacceptable de mon côté, puis je voulais être sûre de faire toute la lumière. » Donc, il y a déjà plusieurs jours, dès que j'ai su, on a déclenché une enquête à l'interne. Mais là, on a l'air simplement en réaction à espérer qu'il n'y ait pas d'autres choses qui sortent dans le journal, puis après ça, réagir à ce qui sort dans le journal, c'est jamais une bonne stratégie.
Parce qu'en sortant proactivement, en plus, on aurait pu reprendre les commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait traité les libéraux de corrompus, puis dire, vous voyez, on n'est plus des corrompus, on travaille pour la vérité.
Écoute, on repense à ces propos-là qui avaient quand même soulevé un peu d'indignation. Ben là, franchement, là, c'est les libéraux du passé. Il doit rire un peu, Paul Saint-Pierre Plamondon, en ce moment, de s'être fait attaquer là-dessus. Mais oui, effectivement, il faut que tu montres une transparence qui est irréprochable. Et c'est plate à dire, là, mais les libéraux ont un passif quand on parle de corruption, de collusion, de malversation. Il y a toujours une espèce de doute qui est resté parce que finalement, les allégations de l'époque Charest, ça n'a jamais abouti sur des accusations ou des condamnations. Donc, ça a toujours un peu été en suspens, ça flotte dans l'air. Et les libéraux, puis tu sais, je veux dire, moi, j'en ai des amis libéraux dans la vie, là. Honnêtement, ils trouvent ça difficile parce qu'il y a un paquet de gens super honnêtes qui travaillent en politique et c'est le genre de situation qui éclabousse tout le monde finalement dans une formation politique. Puis j'ai envie de dire, surtout les gens qui travaillent en politique, parce qu'évidemment, on va avoir probablement des textos de gens qui vont dire ils sont tous pareils, c'est toujours des tout croches, etc., etc. C'est très mauvais pour le cynisme, mais particulièrement le Parti libéral, ils ont ça à porter comme réputation. Il faut qu'ils soient irréprochables. Et honnêtement, j'ai pas été impressionnée par la gestion de Pablo Rodriguez depuis le début de cette affaire-là.
Vous êtes dans le segment Le Caucus avec Antonine Iacarini du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. Pour ceux qui ne se souviennent pas des commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon, les voici.
C'est qu'un Parti libéral du Québec qui fait des campagnes de peur.
Alors, des gouvernements affairistes et corrompus, avait-il dit Paul Saint-Pierre Plamondon.
Il aurait pu sortir ça ce matin, hein, juste sans contexte. Il publie
c'est
juste
ça.
La vidéo
ouais,
comme ça.
Voici ça, c'est ça. Ben justement, ça me fait penser, avant de passer au point de la mise à jour économique, comment on va s'en sortir du côté des libéraux? Là, premièrement, Pablo Rodriguez s'en vient en conférence de presse. J'imagine qu'il ne répondra pas de questions, là. Il va faire une déclaration puis il va se sauver, là.
Ben, tu imagines bien, mais il devrait répondre à toutes les questions et lui devrait nous présenter exactement la séquence d'événements. Tout le brouillard là, dont on parle depuis tantôt, puis les raisons de Geneviève Vince, puis pourquoi Marois Risky a fait ça, au lieu de nous laisser dans la spéculation, parce que moi, j'arrête pas de spéculer, je me dis, Marois Risky, elle a vu ça arriver, elle a dit là, il faut qu'on fasse quelque chose, mais peut-être que c'est pas ça qui s'est passé. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé de A à Z, là.
En effet, parce que tu sais, pour que Marois Risky, tu le disais bien tantôt, ne dise pas de commentaires, c'est parce qu'il y a des avocats qui disent tu parles pas. Puis s'il y a des avocats qui disent tu parles pas, c'est parce qu'elle détient de l'information qui est potentiellement incriminant. Alors, il y a quelque chose de gros qui se cache derrière ça. Mis à part ça, c'est retour à l'Assemblée nationale mardi prochain. Hey, ils vont se faire attaquer, ça n'aura pas de sens.
Ben oui, puis là, un nouveau chef parlementaire du côté des libéraux, André Fortin, je ne sais pas s'il y avait ça sur sa carte de bingo, être chef parlementaire puis gérer la plus grosse crise que le PLQ ait eue depuis des
Il a
années.
appuyé Charles Milliard en plus.
Hey, écoute, il va dire, Colin, on s'est acheté un paquet de troupes. Mais je te le dis, là, je ne veux pas tomber dans les théories du complot, mais j'ai quand même quelques personnes proches des cercles libéraux qui me disent. Tu sais, il ne faut pas sous-estimer aussi qu'à travers tout ça, à la fin d'une course à la direction, d'une course à la chefferie dans un parti, ça crée des déchirements, ça crée de l'animosité à l'interne. Et il y a ça aussi qui se mélange à cette histoire-là. Je pense qu'il y a des gens qui prennent un peu plaisir dans les rangs libéraux à nuire activement à Pablo Rodriguez parce qu'ils considèrent que les militants ont fait le mauvais choix. Je ne te dis pas que ce n'est pas vrai, les allégations. Mais tu vois que ça pousse là, en ce moment-là. On en reçoit là, des messages de libéraux, puis ça nous envoie tout ça. Ça relaie le potinage de beaucoup, je te dirais.
Ben, il y a 48% des membres libéraux qui ont décidé de ne pas voter pour Pablo Rodriguez. Donc, il y a pratiquement la moitié des membres aujourd'hui qui se tapent des mains et qui disent « Ah ah, on savait que c'était pas le bon cheval de bataille. »
Mais à quel point, parce que le parti est quand même touché là-dedans. T'sais, Antonine, tu as toujours
bon
le chef X, là, puis tu as le parti aussi qui en souffre en ce moment.
Oui, absolument. Puis c'est sûr que le message qui est relayé en ce moment à travers dans les rangs, c'est qu'il faut être unis, il faut s'unir, etc. Mais on sent tellement qu'il y a un déchirement qui est assez profond en ce moment au sein du Parti libéral. Un parti qui nous a habitués à être assez sur la ligne de parti. C'est le parti des chicanes, c'était tout le temps le PQ. Hein. Donc, peut-être qu'ils ont moins l'habitude aussi, puis que ça explique leur mauvaise gestion, mais en termes de gestion de crise, je vous dirais que ça n'a pas scoré très fort selon mes analyses.
Ah, c'est complètement le monde à l'envers. Le PQ vient de faire un congrès où tout le monde dansait la valse ensemble de la souveraineté, puis on était heureux. Le livre bleu, on était tellement heureux du livre bleu que Mélanie Joly a dit « On donne notre province à Donald Trump! » Imagine, pendant ce temps-là, les libéraux s'entendent entre déchets. On va revenir un peu à la CAQ, mise à jour économique qui aura lieu mardi prochain, 25 novembre. Moi, je te fais une prédiction, Antonine. On va retirer une taxe sur l'essence pour plaire à la population. C'est la prochaine étape du côté de la CAQ. Ça va faire partie de la mise à jour économique parce qu'on va avoir des bonnes nouvelles économiques. Le déficit va être moins important que prévu. On va avoir réussi des coupures comme on avait promis. Donc, on va dire, au lieu d'envoyer des chèques, parce que ça, ça a déjà été fait une fois, fait que là, on n'a pas le choix de trouver d'autres choses, on va retirer une taxe sur l'essence. Qu'est-ce que tu penses de ma prédiction?
Ben, je pense que les gens qui t'écoutent en ce moment vont dire « J'aimerais vraiment sûr que la prédiction de Jeff se réalise » parce que tout le monde aimerait avoir un petit break pour son portefeuille.
Hey, mais, hein.
C'est le message aussi que le gouvernement a comme laissé flotter en annonçant la date de la mise à jour économique, qu'on allait soulager le portefeuille. Mais en même temps, on nous dit du côté du gouvernement qu'on ne fera pas de mesures électoralistes. Donc, des chèques. On s'entend que bon, c'est comme s'ils avaient admis eux-mêmes que c'était une mesure électoraliste en disant ça. Mais je pense pas qu'effectivement, ça va être des chèques. On nous parle que ce ne serait pas une baisse d'impôts ou une baisse de taxes. Mais la taxe sur l'essence, effectivement, ça avait été abordé. Il faut se rappeler aussi que quand le fédéral a abandonné la taxe carbone, la fameuse taxe carbone de Justin Trudeau, François Legault avait dit « on va regarder ça » parce que là, ça n'a pas de bon sens que les Québécois soient les seuls, les dindons de la farce à payer pendant que tout le monde est en train d'enlever ses taxes carbone puis sa tarification pour la pollution.
Oui, puis là, je reviens toujours à la fameuse région de l'Outaouais, mais c'est parce que c'est tellement facile comme image. Il y a un pont qui sépare Gatineau d'Ottawa. Je sais, là, je vais faire un peu de brag. J'ai déjà couru le marathon deux fois, fait qu'on passe sur le pont entre Gatineau et Ottawa. Et ben là, t'sais, les médecins traversent ce pont-là, puis ils font « Ah, regardons ça! » J'ai un meilleur salaire et des meilleures conditions. Puis là, les automobilistes traversent ce pont-là et disent « Hein? L'essence coûte 25 cents de moins du litre! »
C'est frappant là, tu sais, de voir la différence. Par contre, ce qui est un petit peu plus compliqué pour notre taxe carbone à nous versus celle du fédéral, c'est qu'on fait partie de ce qu'on appelle la bourse du carbone. Mm-hmm. C'est compliqué, je ne me tente pas de rentrer dans les grandes explications, mais ça créerait beaucoup d'instabilité de se retirer de la bourse du carbone. Donc, je pense que François Legault cherchait, avec son ministre des Finances, une manière d'alléger sans sortir de la bourse carbone. Donc, j'ai bien hâte de voir sur quelles solutions ils vont peut-être arriver. Mais c'est intéressant parce que Éric Girard, ministre des Finances depuis maintenant 7 ans, si on commence à le connaître, il est très prudent. C'est quelqu'un de nature prudente qui n'aime pas prendre beaucoup de risques. Et je pense aussi que tout ministre des Finances aimerait tendre vers l'équilibre budgétaire. Là. Honnêtement, c'est pas facile ces temps-ci au niveau de l'équilibre budgétaire. Mais ça, là, ça va être la couverture sur laquelle Éric Girard va tirer, là, c'est de dépenser le moins possible et de ne pas faire de folie. Mais François Legault, lui, qui est finalement le décisionnel à la fin, hein, le premier ministre est tout puissant dans notre système politique, ben lui, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il recherche l'équilibre budgétaire ou il veut faire des points rapidement, étant donné la situation vraiment terrible dans laquelle il se retrouve dans les sondages? Donc, il y a comme une espèce de tension, une tentation d'aller chercher de l'argent pour faire plaisir au monde, mais de l'autre côté, un ministre des Finances qui dit « Là, arrêtons, il faut qu'on travaille vers l'équilibre budgétaire. » Ben, ben hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de cette mise à jour-là. Une mise à jour budgétaire, en fait, une mise à jour économique, c'est comme un mini-budget. Souvent, il y a quelques annonces, mais c'est pas aussi gros là, qu'un budget du printemps.
Je m'attends aussi à ce que, pour continuer dans la thématique, taxes à l'essence, bourse de carbone, fonds verts, je pense qu'on va distribuer énormément d'argent du fonds vert en transport en commun avec la crise qu'il y a eu à la STM, avec les gens justement plus défavorisés de la société qui ont été impactés par ça. Je pense que ça va être une mesure aussi qu'on va faire du côté du gouvernement.
Je suis d'accord avec toi. Le fonds vert, ça fait déjà un petit moment. Tu sais, le fonds vert, en passant, vous êtes taxé là, sur l'essence et tout ça. Et cet argent-là s'en va dans une partie de l'argent s'en va dans le fonds vert. Et le fonds vert avait très mauvaise réputation pendant plusieurs années parce qu'il y avait toutes sortes de niaiseries qui avaient été financées par le fonds vert.
Faites juste aller voir sur Internet ce que le fonds vert a financé dans les 6-7 dernières années. Et à chaque année, vous tombez sur une ou deux absurdités, là.
Genre un projet de réintégration des gorilles en Afrique.
Oui, c'est ça, au Ouganda, là. Exactement.
Exact. Donc, il y a un ménage qui a été fait dans les dernières années dans le fond vert, un ménage qui est sérieux. Mais maintenant, il y a des gens qui disent très bien pour le ménage, mais est-ce qu'on ne devrait pas élargir l'utilisation du fond vert, notamment pour financer le transport collectif?
Ben oui.
Parce qu'on a demandé un effort important aux sociétés de transport collectif pour réduire leurs dépenses. Mais on voit que évidemment, mais premièrement, le transport collectif à Montréal, c'est pas seulement juste une option, c'est pour le fun, pour faire plaisir à la planète. Là, c'est essentiel à l'économie, puis on s'en est rendu compte avec la grève. Mais c'est une manière de soulager le portefeuille, en tout cas d'une partie de la population. Ça pourrait être d'y aller vers des prix moins élevés pour les titres de transport, ou alors même des gratuités pour certaines tranches de la population. On verra bien. Une chose est sûre, le ministre des Finances a été déçu par le budget fédéral parce qu'il avait demandé beaucoup plus d'argent pour les infrastructures. Probablement aussi que ça va influencer d'être prudent dans la prochaine mise à jour économique parce qu'il y a un peu moins d'argent au rendez-vous que ce qu'on aurait souhaité de ce côté-là.
Antonine Iacarini, c'est toujours un bonheur de te parler à chaque lundi au jeudi à midi pour le caucus avec toi. On se parle demain. Tu seras également en direct de Rimouski?
Yes!
Il fait demain. Beau là-bas à Rimouski?
Ben oui, il fait très beau, mais il vente sur le bord du fleuve. Ouais, c'est ça. Quand je suis sortie de mon auto, j'étais comme...
T'as envie, par exemple, quel beau coin sur le bord du fleuve que cette ville de Rimouski. Bonne fin de journée, Anto. Bonne formation.
À demain.
Salut, à demain. C'est Antonine Iacarini que vous entendez du lundi au jeudi dans le caucus Iacarini. On vous le rappelle, en attente de la conférence de presse de Pablo Rodriguez aux alentours de 12h45, normalement.
Ça se demandait ce qu'il va dire, Jeff. Ça se demandait s'il va prendre la position de « je n'étais au courant de rien ». Puis ça se peut que ce soit vrai.
Ça se peut.
Si c'est le cas, puis ça s'est déroulé derrière lui, il va en vouloir une couple de personnes aussi.
Ouais, puis là, des petits brownies pour voter pour lui, quand tu gagnes par même pas 5%, ça peut faire une différence. Donc, c'est vraiment un très gros enjeu pour le Parti libéral. En attendant cette conférence de presse, on va faire une pause, Pascal, et par la suite, on va parler avec Alicia Despins, parce que c'est quand même premier conseil municipal hier.
Oui.
Ça a passé un peu sous le radar. Ville de Québec, premier conseil municipal pour respect citoyen. Donc, on va parler
en de ceci. En tant qu'opposition officielle.
Exactement. Alors, on va parler de ceci avec Alicia Despins. Puis je veux parler aussi, la ville de Québec s'est vantée ce matin, s'est pété bretelles. On est la deuxième meilleure ville en Amérique du Nord pour les pistes cyclables.
Êtes-vous content?
Oui, êtes-vous content, chers auditeurs? 418-971-1021. Ça vous fait quoi de savoir qu'on est les deuxièmes meilleurs pour les pistes cyclables?
C'est sûr que quand on n'est pas capable d'avoir un transport en commun ou un réseau structurant, il faut se rabattre sur quelque chose.
Exactement. Cyclistes, restez à l'écoute. Vous êtes à l'émission Dans Jase sur Boulevard 102. Et on jase principalement de Pablo Rodriguez et du Parti libéral ce midi, toujours en attente de sa conférence de presse qui devrait commencer d'ici une dizaine de minutes. En attendant, cher Pascal, il y a de la circulation.
Incident à l'accès Pierre-Bertrand-Sud vers Félix-Leclerc-Est. Mm-hmm. Est-ce que c'est assez clair? L'accès Pierre-Bertrand-Sud vers Félix-Leclerc-Est en fait partiellement travé. Il y a un accident là. Service d'urgence sur place. Alors, c'est sûr que ça a ralenti là, le secteur.
Et je vous remercie. Continuez à interagir au 418-971-1021. On vous lit énormément puis on va interagir avec vous là, tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission. On va rejoindre, et ça va être le fun, Pascal, parce qu'on va se faire un petit rendez-vous deux semaines le mercredi.
Ouais.
Après chaque conseil municipal, on va rejoindre l'ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger. Oui.
Conseil municipal qui est dans un projet pilote, rappelle-toi, depuis un bon bout. Maintenant, c'est à 2h30 l'après-midi que ça commence, 14h30. Puis on a switcher l'alignement. Habituellement, tu sais, on y allait avec l'adoption un petit peu plus tard et tout ça. Là, on adopte certaines choses, puis après ça passe la période des questions. Aux auditeurs, 88-971-1021, est-ce que ça vous plaît, cette façon de faire-là?
Ah, j'aime
parce
ça comme
que
question.
Des fois, vous devez remanier un peu votre... Écoute, honnêtement, je pense qu'il y a très peu de gens qui s'en vont à un conseil municipal poser des questions.
Oui, c'est clair.
Souvent, c'est les mêmes têtes qu'on voit.
Quand tu es un militant.
Puis peut-être que Alicia pourra nous le dire, mais est-ce que ça a changé un peu votre accessibilité au pouvoir aussi?
Alicia, est-ce qu'il y avait des habitués du conseil municipal pendant tes 8 ans là-bas?
Oui, il y avait des habitués. On les appelait les abonnés. Il y avait autant d'abonnés au conseil municipal que des abonnés du conseil d'arrondissement. Mais c'était à peu près à la même heure. Là, donc, ça n'a pas tant changé les habitudes, j'ai trouvé, là, de nos abonnés au
ça
conseil
se passe
municipal
bien.
De pouvoir se déplacer et venir poser leurs questions.
C'est en ligne maintenant aussi?
Oui, les gens peuvent écrire. Puis ça, c'est méconnu, hein, parce que c'est super facile de remplir un formulaire, poser une question à un élu, si la question est jugée admissible, là, donc il faut que ça soit une question. Elle est lue pendant la séance du conseil et répondue par l'élu responsable. Fait que c'est vraiment une super façon, là, pas besoin de se déplacer, pas besoin d'attendre. Puis des fois, les gens sont gênés, fait que ça peut aider à surmonter ça, là.
Alicia, avant de parler du conseil municipal, tu as fait partie du comité jeunesse du Parti libéral du Québec. Je sais que tu connais encore des gens à l'interne dans ce parti-là. Qu'est-ce qu'on se dit avec justement là, ce scandale-là politique à l'heure actuelle qui se produit?
Bien, c'est ça. Puis là, je voulais t'en parler parce que, bon, le conseil municipal hier de Québec, premier conseil de ville, pour moi, il est un peu passé sous le radar
Oui, hein?
avec tout ce qui s'est passé, là. Puis même moi, de mon côté, mon attention était davantage sur tout ce qui se passe au Parti libéral du Québec. C'est assez fascinant. C'est un peu. Moi, je suis flabbergastée, là. On dirait que Marois Risky a trouvé une ficelle, tiré dessus, puis finalement, tout est en train de se découdre au Parti libéral. J'ai des échos de l'interne, des gens, des amis de longue date là, qui reconsidèrent en fait leur implication, leur engagement carrément, parce que ben, à un an des élections, être dans un bateau qui coule, c'est pas tout le temps la meilleure des affaires. Puis clairement, il y a des choses qu'on ne sait pas actuellement. Puis je pense que la crainte, c'est que ça empire.
Que ça empire, oui, mais peut-être que ça détruise une autre partie du Parti libéral, parce qu'honnêtement, si l'épée Damoclès de corruption, de collusion était présente au courant des dernières années, on commençait à penser qu'on avait sorti un peu la tête de l'eau du parti. Ça fait pas écho de ça là, dans l'actualité actuellement. Puis même que on est en train de mettre peut-être Pablo Rodriguez comme étant le porte-étendard de tout ça, mais était-il vraiment au courant? Tellement de questions.
Tellement de questions, puis c'est super bien dit, c'est exactement ça. Là, on avait des nouvelles personnes à la tête du Parti libéral, des nouveaux élus, des nouveaux militants, des nouveaux membres. Fait que tout ça, on pensait que c'était derrière le Parti libéral, puis là, paf, ça réapparaît. C'est sûr que ça va chercher là, des éléments de la réputation qui collaient, qui étaient, que les gens du Parti libéral auraient assurément souhaité voir être complètement oubliés d'ici l'élection de l'année prochaine.
Ah, c'est clair que ça a cet effet-là et que ça fait en sorte là, qu'il y a plusieurs personnes. On a vu une montée de 2% dans le dernier sondage pour les libéraux, mais là, il y a plusieurs de ces
J'ai hâte de
personnes-là
voir le
qui...
prochain
Ouais,
sondage.
c'est ça qui vont avoir quitté le bateau, j'en suis certain. Alicia, Ville de Québec, ce matin, conférence de presse avec le maire de Québec, Bruno Marchand, dans le bas de la Pente Douce, et il nous annonce, savez-vous quoi? On est la deuxième meilleure ville en Amérique du Nord pour les pistes cyclables. Ça fait-tu Bruno Marchand, très majoritaire, qui prend son air un peu hautain ce que plusieurs citoyens craignaient.
Non, je dirais pas là. Je pense
Non.
que ça fait Bruno Marchand qui poursuit son mandat plus fort que jamais. Pour lui, entre le mois de septembre puis le mois de novembre, il n'y a pas grand. Ben, en fait, ce qui a changé, c'est que maintenant il est fortement majoritaire, mais sa vision, ses orientations n'ont pas changé. Il a juste les coudées plus franches. Puis là, en plus, il est capable de s'appuyer sur des chiffres qui disent. Bien, regardez le travail que j'ai fait dans les 4 dernières années, ça donne quelque chose. Puis lui, il ne déroge pas de son orientation sur la ville cyclable, sur les corridors utilitaires. Donc, je pense que c'est une grande fierté pour lui de se retrouver deuxième dans ce palmarès-là aujourd'hui.
Donc, c'est un bon coup à ses yeux. Conseil municipal, on a vu les gens de Respect citoyen demander rapidement le vote sur sur des dossiers concernant le tramway, sur des adoptions qu'on devait faire concernant le tramway. Crois-tu que ça va être une stratégie qu'on va utiliser à outrance justement pour faire en sorte qu'on parle le moins possible du tramway parce que pour eux, ça ne sert plus à rien là, d'être à l'encontre?
Bien, je pense que ce qui est dit, finalement, sur le tramway, ils vont conserver leur position. Je pense que ce premier test-là du conseil de ville pour Stéphane Lachance, il est important pour démontrer que quand il parle de collaboration, quand il parle d'être constructif, quand il parle de faire le switch entre un militant puis un politicien, ça se concrétise dans la vraie vie. Donc, de pas partir là, sur une chire là, sur le tramway, ben, je pense que ça répond un petit peu à ce besoin-là. Maintenant, il peut le faire sur d'autres plateformes aussi. Peut-être qu'il juge que le conseil municipal, c'est pas la meilleure plateforme pour pouvoir parler contre le tramway. S'il veut continuer, il peut le faire dans ses points de presse avant les conseils de ville, il peut le faire sur dans les différents médias. Mais c'est sûr qu'il est entouré de 18 conseillers de Bruno Marchand, avec un temps de parole qui est réduit et les promesses qu'il a fait là, de rester respectueux dans les séances du conseil, de ne pas en faire un show, ben c'est peut-être plus la marche à suivre finalement là, pour ce parti-là.
Oui, puis j'ai l'impression que ça va se dérouler comme ça, d'autant plus que Bruno Marchand est majoritaire. Je pense pas que Stéphane Lachance n'ait pas appris au minimum de ce qui se passe aussi après son élection, dans le sens où il a tellement été peinturé dans un coin comme avoir été négatif dans sa campagne. Il a tout à gagner de collaborer avec le maire. Il a peu de moyens pour le confronter autre que pour vraiment faire le chien de garde de ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Par contre, as-tu des appréhensions, toi, de ton côté? Parce que là, on vient de se réinstaller. Premier conseil municipal. Assurément, on saute pas dans le vif des sujets de façon agressive, mais as-tu des appréhensions?
Bien, c'est sûr que le conseil d'hier donnait le ton pour les prochains mois. Donc, on a eu un conseil qui était plus court, on a eu un conseil qui était très respectueux, qui était très constructif. Les gens de Respect citoyen devaient démontrer qu'il y avait autre chose dans leur contenu que seulement le tramway. Donc, ils ont étudié leur dossier. Mélanie Sauvé, notamment, là, pose des questions super pertinentes sur des dossiers autres que le tramway. Donc, ça vient un peu appuyer leur propos. Maintenant, ça peut changer du tout au tout là, en une fraction de seconde là, selon le contexte politique, puis selon le contexte politique aussi à l'interne, parce que là, c'est un parti qui se reconstruit d'une certaine façon, qui se professionnalise. J'en ai parlé la dernière fois que j'étais en studio. Ce parti-là, oui, pose des questions, etc., étudie les dossiers. Mais ça va être important d'aller plus loin que ça, finalement, là, dans les prises de position de Respect citoyen.
Je vous rappelle, on est en attente du point de presse de Pablo Rodriguez. Ça devrait être d'ici quelques minutes où il va s'adresser justement aux médias concernant la crise à l'interne qui frappe le Parti libéral du Québec. Des gens auraient été payés pour voter pour Pablo Rodriguez lors de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. En attendant, on parle du conseil de ville d'hier avec Alicia Despins, ex-conseillère municipale dans Vanier-du-Berger et maintenant chroniqueuse politique pour nous à l'émission On en jase. Alicia, financement du tramway, est-ce que tu es inquiète? Parce que Joël Lightbound, la semaine dernière, sur nos ondes, a dit « Ouais, on sait pas trop si on va avoir plus que le 1,46 milliard. » Bruno Marchand dit « Ben moi, je suis pas inquiet, il y aura d'autres façons de financer. » En effet, la ville a un contrat, c'est 750 millions maximum qu'on va payer. Mais n'empêche, il y a encore ce fameux trou-là de 2 milliards, là, à peu près, là, dans le budget.
Bien là, tu peux me traiter de trop optimiste, là, mais moi, on dirait que depuis l'élection de Bruno Marchand, haut la main comme ça, bon, Mark Carney qui commence à prendre ses aises, qui fait adopter son budget sans trop de difficultés, qui, à mon avis, va se retrouver avec une majorité très, très, très fragile, mais quand même, là, dans les prochains mois. Donc, pour moi, le financement, c'est pas inquiétant. On est plus rendu dans des enjeux administratifs, là, je vais appeler ça comme ça, davantage que politique. Donc, on va aller chercher de l'argent dans les fonds de tiroir, on va essayer d'être créatif pour boucler le budget. Mais ce financement-là, pour moi, il n'est pas... En fait, il ne vient pas mettre le projet en danger. Est-ce qu'après ça, il va falloir faire des choix? Est-ce qu'on peut s'attendre à certaines petites mauvaises nouvelles où le projet pourrait être diminué d'une certaine façon sur certains tronçons? Peut-être, ce genre de choses qui arrivent là, dans des grands projets. Mais pour moi, ça ne remet pas en question du tout la viabilité du projet.
Alicia, ça, je pense que c'est chose faite. Ça, je pense qu'on va pouvoir analyser les coûts, le tracé, voir comment ça se passe. Il y a des expropriations là-dedans. Il y en a qui ont été annoncés au niveau de la première avenue dans Limoilou. On parle de commerce, c'est bien implanté. On parle de la brûlerie Limoilou, on parle de Salvatore, on parle de blocs immobiliers aussi avec des logements. Déjà, on est en pénurie de logements. Dans un secteur où, finalement, on va raser des commerces de proximité qui sont très importants pour ces gens-là, qui font beaucoup à pied leur vie. Beaucoup d'immigrants qui s'installent aussi dans le quartier Les Raies depuis des années. Ça sera pas chose facile, les expropriations pour un projet comme ça. Toi, tu as été au municipal longtemps. Tu as sûrement un commentaire.
C'est sûr. Puis on a vu aussi, dans les sommaires destinés du conseil, on a parlé amplement d'une expropriation de 0,9 mètres carrés. Donc, ça va dans le très micro aussi, là, mais c'est des procédures qui sont très fastidieuses, qui sont longues, qui sont légales, qui entraînent des répercussions sur un petit peu tout le monde. Pascal, tu parles de commerce. Plus souvent qu'autrement, c'est juste des petites bandes de terrain. Mais même ça, que ce soit un commerce ou une bande de terrain, on dirait que c'est aussi compliqué un cloque, là. Hier, au conseil de ville, il y avait une vingtaine de sommaires décisionnels qui ont été adoptés qui concernaient des acquisitions ou des processus d'expropriation. Donc, dans la grande majorité du temps, la ville va tenter d'acquérir les bandes de terrain dont elle a besoin pour faire passer le tramway. Mais ces sommaires-là sont adoptés pour pouvoir passer en mode expropriation si les discussions sont trop longues. Donc, ça va être intéressant de voir où ça peut accrocher ces processus-là, où il va falloir aller en expropriation. Mais c'est sûr qu'on va continuer d'en voir des sommaires décisionnels comme ça dans les prochains conseils de ville. On va voir si Respect citoyen continue avec sa ligne en ce moment de demander le vote, voter contre, sans faire un gros show. Ça aussi, ça va être intéressant. Puis, la ville, maintenant, a un nouveau responsable des communications sur le tramway, qui est Raymond Poirier, conseiller municipal de Limoilou. Donc, ça va être son rôle à lui de bien faire cette image-là, puis de bien communiquer pourquoi la ville exproprie pour le projet de tramway, puis de s'assurer là, que ça se fasse le plus facilement possible. Évidemment, là, c'est jamais gagné d'avance, là, mais il va falloir qu'il fasse ce travail-là.
Un très bon dossier pour Raymond Poirier, ses débuts justement au conseil municipal. Alexia Despins, ça commence à bouger du côté du Parti libéral près du point de presse. Alors, on te laisse là-dessus. On va aller écouter Pablo Rodriguez dans quelques minutes. On se reparle le mercredi après chaque conseil municipal. Merci beaucoup. C'est super intéressant d'avoir ton expertise.
Merci, bonne journée.
Salut, bonne journée. C'était Alexia Despins, ex-conseillère municipale dans Vanier-du-Berger, maintenant chroniqueuse politique pour nous à Boulevard 102.1. Très intéressant, oui. Là, comme chronique. Pascal, avant qu'on passe à Pablo Rodriguez, est-ce que tu veux nous résumer à nouveau tout ce qui s'est passé là, dans ce dossier-là depuis ce matin?
Pour Pablo Rodriguez, tu veux dire,
oui,
et le Parti libéral.
Exactement.
Bon. D'abord, je vais y aller avec la dernière des nouvelles qui est arrivée parce que l'ex-directrice de cabinet de Marois Risky a affirmé avoir été congédiée injustement. C'est la première fois qu'elle prend la parole depuis le scandale qui est sorti hier. Je dis scandale parce qu'énormément de réactions. Tout le monde est un peu sur le qui-vive. On veut comprendre. Puis on n'a pas toutes les pièces du casse-tête. Donc, elle a fait une courte déclaration qui a été transmise aux médias et elle dit qu'elle est blessée par la situation. Ça a commencé quand Marois Risky a congédié Geneviève Hines de façon unilatérale, sans avertir le chef Pablo Rodriguez de cette action-là, ni le caucus. Donc, les libéraux ont tous appris la nouvelle par le message qui avait été envoyé par Marois Risky, comme quoi c'est un congédiement et ça se passe comme ça. Très peu de commentaires. Alors, pour Mme Hines, qui a pris la parole par écrit il y a quelques heures seulement, elle dit « Je suis convaincue que rien ne justifiait mon congédiement. J'ai l'intention de me défendre vigoureusement et j'évalue tous les recours à ma disposition afin de rétablir les faits. Je ne ferai aucun autre commentaire pour l'instant. » Et elle a déclaré qu'elle travaille en politique depuis 20 ans avec rigueur, professionnalisme et honnêteté. Alors, voilà. En dehors de cette courte lettre-là, elle affirme ne pas avoir reçu la moindre explication, verbalement ou par écrit, pour justifier son congédiement. Ça a commencé comme ça. Pablo Rodriguez a répliqué, a dit, si c'est comme ça, puis on prend des décisions dans mon dos par rapport à une femme que j'estime travailler de façon...
Ciao, bye, Marois Risky.
Loyal et tout. Ciao, bye, Marois Risky. Voilà que ce matin, d'autres nouvelles sont venues à nos oreilles. Ça semble être un genre d'autres situations. On attend de trouver s'il y a des lignes directrices qui font une corrélation entre les deux dossiers, mais crise littéralement au PLQ. Pablo Rodriguez a déclenché une enquête externe en raison d'allégations graves qui ont été faites. Donc, le Parti libéral du Québec veut faire la lumière sur des allégations qui suggèrent que certains de ses membres qui auraient reçu de l'argent pour appuyer sa candidature, sa personne, dans la course à la chefferie. Donc, des allégations qui sont graves, vous comprenez, parce que c'est une situation qui est extrêmement sérieuse. Et on dit qu'on veut travailler là-dessus de façon rigoureuse et transparente. Donc, il n'y aura pas de presse dans quelques minutes pour cette situation-là. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a deux députés, parce qu'on a eu des textos, en fait, Jeff, des textos, oui, qui n'ont pas été prouvés comme quoi et c'est clairement passé ça. Est-ce que ça a été monté toute pièce et tout ça? On ne sait pas.
Mais des textos qui parlaient de gâteau.
De brownie. Brownie qui est 100 piastres finalement.
Ouais, exactement.
Qu'on donnait aux gens qui appuyaient Pablo Rodriguez dans sa course. Alors, c'est sorti. Cogeco allègue qu'il y a deux femmes qui ont été identifiées comme les personnes ayant écrit les textos échangés. La députée libérale Sona Lakoyan-Olivier et la députée caquiste Alice Abou Khalil. Les deux ont envoyé une prise de parole dans laquelle elle nie toute application en lien avec cette histoire-là. Elle dit qu'elles n'ont rien à voir avec ça, avec aucune des allégations à l'effet que les électeurs auraient été payés 100 $ pour appuyer Pablo Rodriguez dans la course à la direction du PLQ. Et elles se disent très claires, elles redisent et disent de la même manière dans leur prise de parole qu'elles n'ont rien à voir avec l'histoire. Alors, écoute, c'est ce qui se passe en ce moment. Crise intéressante, mais hyper importante en termes d'intégrité pour le Parti libéral.
Énormément de réactions par texto. Bon, Joël qui nous demande si c'est illégal, pourquoi la CAQ a donné des cadeaux au peuple pour être élu? Même chose pour Trudeau ou Carney. Ouais, là, c'est différent.
C'est parce
là,
qu'ils l'ont fait avec
100
les taxes,
pour
les impôts,
un vote, exactement. Tandis que dans le cas des partis politiques, ben c'est des mesures fiscales
parce
qu'on prend.
Les mesures fiscales peuvent vous convaincre que vous devez voter pour ce parti-là.
Exactement.
Mais c'est dans le terme d'une politique. Hein. C'est dans le terme de ce qu'on va vous offrir en tant que parti. Où est-ce qu'on a une vision? Comment est-ce qu'on voit les choses? De quelle manière on veut vous aider? C'était pas on vous donne ces chèques-là, mais votez pour nous. Tandis que dans ce cas-ci, c'est ça.
En plein ça. Pablo Rodriguez devrait arriver bientôt. Un auditeur qui nous mentionne, Pablo peut être impliqué au départ et espérait cacher le tout. En effet, ça peut être une hypothèse qu'on soulève et c'est pourquoi on aurait essayé de cacher ceci. Un autre auditeur qui nous dit « Ouais, je crois pas bien mal à la crédibilité d'une enquête indépendante payée par le PLQ. » Je suis dans la même équipe. Moi non plus, j'ai beaucoup de difficultés. C'est pour ça que je veux beaucoup plus une enquête du directeur général des élections et, s'il le faut, de l'UPAC là, également.
Absolument.
Donc, Isabelle qui me fait bien rire en disant « Legault va aussi donner des brownies aux Québécois avec les fonds publics. » Ouais, c'est ça. T'sais, on en parlait, c'est la différence. Mais oui, François Legault, dans sa mise à jour économique de mardi prochain, c'est clair qu'il va faire des petits cadeaux à la population.
Qu'est-ce qui va arriver avec le Parti libéral qui, depuis des années, se fait targuer avec raison de collusion, de corruption? Oui. Jean Charest avait été sacré dehors. Il essaie de revenir, ça a été non. Il n'y a pas de crédibilité pour le Parti libéral.
Non. Dominique Anglade, qui avait été élu par acclamation et qui n'a pas réussi justement
à convaincre
faire le virage à convaincre les électeurs.
En même temps, le Parti libéral, à ce moment-là, avait pris une tournure un petit peu plus de gauche au niveau économique également. Donc, les gens qui s'étaient
plus multiculturels,
donc s'identifiaient moins. Fait qu'il y avait beaucoup de choses. On avait une restructuration à faire au niveau du Parti libéral. Puis on pensait qu'on commençait à sortir la tête de l'eau avec, entre autres, des candidates comme Marois Risky.
Vraiment.
Quand elle a annoncé, rappelle-toi, qu'elle quittait la politique pour un temps X pour s'occuper de sa famille, il y avait eu des vagues exceptionnelles parce qu'on se disait, merde, on la voit comme la solution au Parti libéral. Pablo Rodriguez n'avait pas convaincu les électeurs non plus. Sa candidature faisait encore beaucoup d'écho dans les opinions des analystes politiques, comme quoi on n'était pas sûr de lui. Puis imagine avec aujourd'hui. Hey, il se dirige au lutrin en ce moment.
Il se dirige. On va aller rejoindre Pablo Rodriguez en conférence de presse. On vous revient par la suite.
Rodriguez, on va aller l'écouter en direct.
On a entendu tout plein de choses dans les médias. Je veux vous parler de les trois histoires qui circulent. La première, que je serai au courant pourquoi Marois a congédié la chef de cabinet. La deuxième concerne l'utilisation de fonds de l'Assemblée à des fins partisanes. Et la troisième, les fameux textos. Alors, sur le premier point, je réitère que Marois ne m'a pas informé avant de congédier Geneviève Vince. Et à ce jour, je ne sais toujours pas quelles sont les raisons pour lesquelles elle a congédié. La deuxième histoire, au sujet des fonds de l'Assemblée nationale, toutes mes dépenses, 100% de mes dépenses, sont payées par le parti. Vous êtes ici au parti. Chacune de mes dépenses est payée par le parti et c'est facile à prouver et à démontrer. C'est le parti qui approuve et c'est le parti qui rembourse les dépenses. Il y a des élus qui tournent. Évidemment, moi, je fais des tournées avec eux. De leur côté, c'est les frères liés à l'Assemblée nationale. Mais dans mon cas, à moi, comme chef du parti, 100% des dépenses sont approuvées et payées par le parti. Et le dernier point, les textos en question, la première fois que j'ai vu ça, c'était ce matin, dans les journaux comme bien des gens. J'ai demandé au parti de mener une enquête à cet effet-là. Et si il y a quelqu'un qui a fait quoi que ce soit de pas correct, c'est évident qu'il va y avoir des conséquences extrêmement sérieuses. C'est tout. Je vais répondre à vos questions.
Okay. Donc là, vous avez demandé une enquête interne. Est-ce que vous allez rendre ça public?
Ben, j'ai demandé au président de demander une enquête. Oui, on va. Écoutez, on n'a rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher. Personne n'a rien à cacher. Il faut comprendre ça. Là. Ouais. Vous avez des textos qu'on attribue à certaines personnes. Chacune des deux personnes, là, c'est pas quelqu'un sur le point de rue, chacune des deux personnes qui sont des députés de deux partis différents disent que refusent ça et menacent même des poursuites. Alors. Ce qui est vrai, ce qui est prouvé là-dedans, j'ai aucune idée. Mais il faut faire très attention lorsque l'on attaque l'intégrité d'individus. Surtout lorsque rien n'est attribué spécifiquement à qui que ce soit, qu'il n'y a pas de preuve à cet effet-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai demandé à l'interne de faire la lumière là-dessus, pour essayer de trouver quelques informations que ce soit.
OK, mais justement, Mme Heinz, là, vous ne lui avez pas parlé depuis lundi. Elle, elle s'est fait congédier. Elle ne vous a pas appelé.
Non, j'ai parlé hier. Je l'ai appelé hier.
Après votre rencontre avec
Mme Heinz. J'ai appelé hier soir, oui, après Geneviève. Tout d'abord, sur le plan personnel, parce que je m'inquiète pour elle. C'est quelqu'un d'un grand professionnalisme, d'une grande intégrité, avec qui j'ai toujours eu confiance et à qui j'ai encore aujourd'hui confiance. Et je l'appelais pour prendre de ses nouvelles. J'ai demandé si elle en savait plus. Elle m'a dit non. Et par la suite, ben, j'ai encore parlé sur le plan personnel. Et c'est tout.
Monsieur Rodriguez, le chef du parti, comment ça se fait que vous ne savez pas ce qu'on lui reproche à Mme Heinz?
Parce qu'il n'y a que Mme Risky qui le sait, et il va falloir qu'éventuellement elle le dise.
Puis elle ne l'a pas dit.
Non. Non. Non.
Est-ce que vous voulez une enquête du DGEQ et aussi de l'UPAC?
Bon, on va garder ça.
Moi, je ne détermine pas qui fait des enquêtes. Je ne donne pas d'ordre, je ne donne pas de directive. S'il y a des enquêtes, nous, on va partager toute l'information. On n'a rien. Mais absolument rien n'a caché. Vous êtes ici.
Alors, c'était Pablo Rodriguez qui répond présentement aux questions après sa très courte allocution. Pascal, ça manque clairement de leadership, premièrement dans son ton, sa posture. Là, je sais que les gens à la radio ne le voient pas, mais très nerveux, les mains ballottantes. On le sent dans la voix qu'il n'est pas en maîtrise de la situation. Moi, si je suis un militant du Parti libéral et je regarde ça, j'ai... Mon Dieu, j'ai vraiment pas le bon chef pour me représenter.
Attache ta tuque. Je suis en total désaccord avec toi.
Ah oh, ouais?
Je suis en total.
OK, mais
désaccord
vas-y.
Avec toi.
Hey, vas-y, j'aime les
On débats. Est à brûle pour point. On vient de le vivre ensemble, cette prise ouais. de parole-là. Nous autres, on avait aussi le visuel. Hein. Ça aide. Tu sais que toi et moi, on aime ça, analyser ça. Il m'a presque convaincu qu'il n'était pas au courant. Il m'a presque convaincu par comment il se présente actuellement, qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Puis oui, tu parles de leadership, ça semble être bien au-delà de lui.
Tu as raison, il y a un désarroi. Raison, je te le donne.
Il est décontenancé, moi, te le dire. Là,
c'est clair.
Il ne sait plus visser un pot-maçon en ce moment.
Non,
il ne sait plus visser
clair.
Un pot-maçon.
Mais c'est justement pour ça que je te dis, moi, comme leader, je me serais entendu, c'est hey, j'ai fait ça. Il me semble que là.
J'ai l'impression que.
Il est déstabilisé complètement.
Et si. Ce n'est pas le cas. Okay? Ici, on est en train de se faire enferouaper. On est en analyse très, très chaude là, sur ce qui vient de se passer. Il a réitéré sa confiance envers Geneviève Heinz, qui est l'ex-chef directrice en fait, du cabinet de Marois Risky. Moi, je vais te dire une chose.
Vas-y.
Là, il est encore en train de répondre à des questions. Veux-tu qu'on y retourne ou on revient?
Oui, on peut y retourner juste un petit peu voir.
Leadership de ne pas être au courant de ça?
Moi, je n'ai pas été mis au courant parce qu'à ce moment-là, il a été décidé probablement qu'il n'y avait rien comme tel. Le parti a vérifié. Mais une chose est sûre, moi, j'ai jamais été au courant et je suis certain que les membres de mon équipe, ces bénévoles qui dirigeaient ma campagne, n'étaient pas au courant non plus. C'est du monde dont on remet l'intégrité aujourd'hui basé sur un texte qui n'a ni preuve ni rien et dont les personnes refutent.
La TVA, le point de presse se poursuit.
Voilà,
tu vois, moi, je sens vraiment qu'il est décontenancé par la situation. Il dit, je veux pas qu'on remette en question l'intégrité du parti. Ben là, je comprends que c'est un souhait qu'il a, mais ça pourra pas arriver.
Ben non, ça, c'est clair.
Il fait bien. Moi, je trouve son point de presse court et concis. S'il n'y a pas d'informations, il dit, voici ce que moi, je sais.
Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur les trois allégations, il est allé très rapidement, très concis. Ça, je trouve que c'est un bon point.
Avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il sait de la situation.
Mais moi, c'est la stature. On dirait qu'il n'y a pas la stature non. d'un chef d'État.
Ah, honnêtement, il est chamboulé, là. Puis peut-être que peut-être dans la façon dont tu vois le leadership, ouais. tu t'attends à ce qu'il y ait une colonne vertébrale, même quand c'est compliqué, quand c'est abrupt comme ça. Je me suis demandé, quand il a parlé de Marois Risky, il n'était plus aussi... Moi, j'aime ça utiliser le terme salin qu'il a été hier.
T'as raison.
Il était plus doux en disant « Je n'ai toujours pas idée de pourquoi Marois Risky a pris cette décision-là. »
Ça, c'est une question que j'ai posée à Lambert Drainville qu'on va avoir dans quelques minutes en ondes avec nous après la pause parce que Lambert, il était justement dans les coulisses.
Mm-hmm.
C'est normal que Pablo Rodriguez le sait pas encore? À un moment donné, c'est le chef. Devrais-tu exiger de le savoir?
Oui, ce que j'ai entendu dans ses dernières entrevues, c'est que bon, il savait qu'il y avait... peut-être un petit peu de déconnexion entre les deux femmes, mais, ouais. mais à part ça, il n'y a pas d'informations sur pourquoi elle a été mise dehors. Geneviève Hines réitère ça dans sa prise de parole aujourd'hui,
mm-hmm.
mais il était moins aigri, il était moins fâché, on dirait, dans son ton, envers Marois Risky. Est-ce que peut-être il fait « Merde, y a-t-il des choses que je ne suis pas au courant? » Puis officiellement, ça commence à sortir.
Puis là, ça va exploser.
Puis là, ça va exploser, puis elle avait peut-être raison.
Ouais.
Écoute, on est dans des suppositions.
Exactement. Sur les textos, je le trouve pas très adroit aussi parce qu'il parle beaucoup des deux femmes qui ont été nommées.
Oui.
Puis il dit, bon, elles se sont défendues. Ça, c'est correct. J'ai pas de trouble avec ça. Mais ces textos-là existent quand même.
Oui.
Faut que tu fasses la lumière. On dirait qu'il est pas très entreprenant sur qu'est-ce que je vais faire avec ces textos-là.
Non. Puis ben, en même temps, je veux dire, il y a une partie qui n'est pas que politique. Hein. Mm-hmm. Il y a une partie aussi qui est au niveau de la justice. Dans ce cas-ci, si ça s'avère vrai, il y a procédure judiciaire qui peut être intentée. Je pense que c'est déjà le cas. Les avocats sont dans les dossiers. Donc, ça doit être pour ça qu'ils ne se prononcent pas énormément là, sur le dossier.
Texto qui est rentré, c'est quoi? Il n'a pas demandé pourquoi il l'a mis à la portée. En effet, c'est là ce que je veux poser la question à Lambert Drainville. Je pense qu'il l'a demandé, mais à partir du moment où tu n'as pas de réponse, il y a un avocat à côté de Marois Risky. Qu'est-ce que le chef peut faire? C'est pour ça que je veux poser la question à Lambert.
Peut-être même que Marois Risky ne répond pas parce que le processus judiciaire est en cours et s'est fait conseiller par son dit avocat de ne pas se prononcer. Écoute, c'est des gens qui ont des contacts. Hein. C'est des gens qui peuvent aller chercher l'expertise par excellence. Mm-hmm. Donc, souvent, s'ils posent un geste politique, en plus qui engendre le judiciaire, ils vont avoir pris toutes les dispositions à leur côté pour agir en conséquence, de ne pas se tromper. Par contre, ce que je retiens aussi, puis qui va être un couteau à double tranchant, s'il dit la vérité et s'il n'a rien à se reprocher, Pablo Rodriguez, le fait qu'il répète et répète, qu'il ne laissera jamais personne remettre en doute son intégrité, si ce n'est pas le cas, puis qu'il est au courant, puis qu'il le dit pas, c'est la fin de sa carrière
politique.
C'est
la fin, c'est terminé. Et moi, je retiens aussi une petite particularité, là, t'sais, moi, j'aime ça, entendre les mots et les comprendre. 100% de ses dépenses sont payées par le parti.
Oui.
Mais quand on parle de dépenses partisanes, ça peut être des dépenses autres que les dépenses du chef.
Exact. C'est pour alors ça que je pense qu'il a été concis par rapport là-dessus. À lui. Hein. Ce qu'il sait, lui, il s'est prononcé sûr.
Exactement. Voilà. On continue de parler de ce fiasco libéral, Parti libéral du Québec, de cette guerre interne et de ces possibles manœuvres de corruption pour élire Pablo Rodriguez à titre de chef avec Lambert Drainville immédiatement après cette courte pause à Boulevard 101 à l'émission On en jase.
On en jase. Jusqu'à Pit Stop avec Gravel, 7h45. Uh-huh. On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
On en jase, votre show du midi sur Boulevard 101 de midi à 14h. Le retour de Gravel, Audrey, le retour de la Côte-Nord, Pascal va suivre avec Audrey, Denis et Véro. En passant, Nathan Meilleur a fait un excellent travail les deux derniers jours. J'ai pris une discussion qu'ils avaient sur la lecture hier et j'ai adoré. C'est disponible évidemment sur le blvd.fm. Météo 0 degré à l'heure actuelle, alternance de soleil et nuages. Moins 1 degré demain ensoleillé, 0 degré avec de la neige prévue pour vendredi. Pascal,
oui.
Éclipse médiatique avec Pablo Rodriguez et le Parti libéral du Québec. Mais avant d'aller rejoindre Lambert Drainville, qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'actualité?
Oui, c'est sûr que là, il y a peu de nouvelles qui intéressent les gens actuellement quand on a une éclipse médiatique comme ça. Par contre, il y en a une à Québec qui est énorme et qui intéresse beaucoup de gens d'affaires, beaucoup d'entreprises. C'est dans la saga avec Stéphanie Huot, OK?
Oui.
On spéculait que les deux hommes, ben, en fait, n'avaient pas tant travaillé ensemble dans tous les stratagèmes qui étaient allégués là, envers le duo. Robert Giroux, qui est un peu son bras droit, mm-hmm. disait toujours qu'il ne savait pas ce que Stéphane Huot avait fait, finalement, réputé homme d'affaires, mais réputé maintenant pas pour les bonnes raisons.
Ouais, exactement.
Robert Giroux, officiellement, est condamné à verser 128 millions de dollars au millionnaire qui l'a entraîné dans la chute du groupe Huot. C'est un jugement sans équivoque. On n'est pas allé de main morte. Le tribunal donne raison aux millionnaires victimes de fraude de type Ponzi, puis de manœuvres trompeuses. Je sais qu'il y en a qui festoient aujourd'hui. Avec raison, ça a été super difficile. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on est dans le dossier facilement. Donc, on a des manœuvres trompeuses, la gestion dans l'ombre de fonds de nombreux investisseurs millionnaires qui ont fait confiance au groupe Huot et qui a entraîné des débâcles, des dérives, qui a enivré, difficultés importantes. Ça a été un procès de plusieurs phases qui s'est étiré sur un an au total. Le juge Jocelyn Geoffroy qui a donné raison aux investisseurs qui avaient été floués dans une décision de près de 200 pages hier. Ceux qui ont été désignés comme les millionnaires de Québec réclamaient à Robert Giroux 130 millions de dollars. C'était le cumul de leurs pertes dans Q12 et Fitch. C'était deux fonds mis sur pied par l'homme d'affaires pour des prêts au développeur immobilier Stéphane Huot. Alors, on convainquait des hommes d'affaires, puis finalement, on les flouait littéralement, puis on leur faisait perdre
de Donc, Robert Giroux faisait partie du stratagème.
Du stratagème, puis il a toujours nié que, bon, mais voilà. Sinon, dans Québec, encore une fois, fermeture aux Galeries de la Capitale, une autre fermeture, bientôt la fin pour Toys R Us à Québec.
Ah,
on vient
dommage.
D'apprendre ça, donc la fin pour Toys R Us, alors que les employés de la succursale des galeries ont appris récemment qu'on allait fermer les portes près d'un an jour pour jour après la fermeture de celle sur le boulevard Laurier. Alors, on n'a pas plus d'informations. Ouais. On sait qu'on a placardé.
J'imagine qu'on va sûrement faire la période des fêtes. Même pas, on a placardé.
On a placardé, en fait, d'affiches. C'est là où j'allais avec des réductions jusqu'à 30 %. Là, donc, on travaille sur une offensive, je pense, de liquidation. Puis ça va avec Babies R Us aussi. Hein. C'est un magasin qui était en deux pans comme ça. Crime organisé, le nouveau El Chapeau, un ex-Montréalais. Moi, je te le dis, dans les dernières heures, le nombre de nouvelles par rapport au crime organisé, Tupac arrêté à Montréal, mais pour des activités du côté des États-Unis. Mmh. Arrêté par la Gendarmerie royale et le FBI après une histoire de meurtre à Medellin, en Colombie. Si vous ne pensez pas que c'est dans notre cour, là, ce qui se passe au niveau du trafic, c'est là, puis pas à peu près. Si c'est pas dans votre cour, c'est dans le nez du monde autour de vous. Je dis ça, je dis rien, mais dans les nouvelles au niveau du crime organisé, on a aussi ex-athlète olympique montréalais qui est comparé à El Chapo et à Pablo Escobar par le patron du FBI.
C'est
alors, c'est Ryan James Wedding.
Il a commandé des meurtres partout dans le monde, je pense. C'est ça que j'ai lu rapidement.
Narcotrafiquant canadien qui a habité à Montréal. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 pour l'équipe nationale de surf des neiges. Nouvelle incarnation de Pablo Rodriguez. C'est un peu capoté, cette histoire-là. Ça sera peut-être un autre documentaire à suivre, mais c'est pas tous les jours que des dirigeants de l'administration de Donald Trump qui donnent une conférence de presse à Washington pour annoncer qu'il y a un criminel canadien qui a résidé au Québec, qui est devenu l'ennemi public numéro un aux États-Unis. Alors, beaucoup qui ont été appréhendés aussi dans cette histoire-là, puis ça fait partie de ça, Tupac, le cahier de Montréalais. Donc, on ne fait pas belle presse à l'international. L'organisation de Ryan James Wedding, c'est 60 tonnes de coke par année.
Aïe, aïe, aïe!
60 tonnes.
Comme tu as dit, c'est dans le nez proche de chez vous.
Dans un nez proche de chez vous.
C'est ça, exactement.
On va suivre ça.
Pendant que Pablo Rodriguez continue de se démener avec la presse et leurs nombreuses questions, on va aller rejoindre Lambert Drainville, notre chroniqueur que vous pouvez entendre sur nos ondes à chaque mercredi aux alentours de 13h et le vendredi à midi dans un format de débat avec Farnell Morisset. Lambert Drainville, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. J'imagine que ça va mieux que Pablo Rodriguez.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec présentement pour qui ça va moins bien que Pablo Rodriguez et ses fidèles acolytes du Parti libéral, mon cher Jeff.
Bon, t'as écouté la conférence de presse comme nous, à tout le moins le début. Je voudrais savoir, parce que t'as déjà été justement à l'interne dans les partis politiques, c'est-tu normal que le chef sache pas pourquoi il y a une employée qui a été congédiée?
Non, c'est pas normal. Puis c'est pour ça que là, on s'attendait à avoir des réponses au courant de la journée aujourd'hui après la bombe qui est parue dans le journal ce matin concernant des échanges textos. Il serait, faut le dire, là, ce qui serait de véritables textos envoyés entre deux véritables députés. Les noms d'une députée de la CAQ et d'une députée libérale ont été soulevés. Mais depuis ce matin, ces deux députés-là nient avoir quoi que ce soit à se reprocher. la directrice de cabinet de Mme Risky qui a été mise à la porte nie également avoir commis quelconque forme de faute. Et là, on vient de terminer le point de presse de Pablo Rodriguez qui nie sur toute la ligne. Alors, on n'a pas les réponses auxquelles on s'attendait depuis ce matin. Là, il y a une enquête qui a été lancée. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, ce genre d'enquête-là externe pour effectivement voir s'il y a des méfaits qui ont
été... Lambert, il faudrait que ça soit rapide parce qu'on ne peut pas s'en aller en campagne électorale avec cette épée de Damoclès de corruption qui pend au-dessus de notre tête. Là. Ça va être un résultat catastrophique.
Ouais, puis bien honnêtement, si je suis dans les souliers du Parti libéral, je veux que ça se fasse au plus sacrant, là, t'sais, surtout si, comme il semble l'avouer, il n'était pas au courant de rien. En même temps, c'est difficile à croire, Jeff, là, tabarouette, t'sais, la fameuse expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Là tu as une députée, la députée la plus populaire de ton caucus, une légiste, une fille chevronnée qui met sa directrice de cabinet dehors sans avertir son grand chum, le chef du parti, Pablo Rodriguez. Ça, déjà, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Là. Puis quand j'ai dit qu'on avait entendu les versions de tout le monde, la seule personne de qui on n'a pas entendu sa version, ça demeure Marois Risky. Voyons voir si elle va faire connaître sa version des faits au courant des prochaines heures. Mais hier, elle n'a pas adressé quoi que ce soit aux médias. Et c'est la seule dont on n'a pas entendu la version, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions sur non seulement qu'est-ce qu'elle a fait, sa directrice de cabinet, mais comment, dans quel monde est-ce que t'es la chef parlementaire du parti et tu n'informes pas ton chef avant de faire un geste de cette envergure-là? Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui demeurent concernant cet aspect-là spécifiquement. Et évidemment, tout le reste de l'information, je veux dire, les textos, ça a été corroboré par le Journal de Montréal qui avait cette information-là. Jonathan Trudeau du 98.5 et 93.3 à Québec, qui a également dit que selon lui, c'est des textos que plusieurs personnes, plusieurs élus avaient déjà vu circuler. Certains parlent que ça circulait depuis le mois d'avril. Et là, tout le monde nie tout. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui ment. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui ment. Et malheureusement, comme tu le dis, dans l'intervalle, alors qu'on n'a pas la vérité, c'est sûr que s'il y a bien quelqu'un à qui ça fait mal, c'est Pablo Rodriguez, c'est le Parti libéral. Parce que s'il y a un parti dans les partis politiques québécois qui n'a pas cette marge de manœuvre-là de marcher sur la ligne de l'éthique et de la collusion-corruption, évidemment que c'est le Parti libéral, on s'entend. Là.
On s'entend là-dessus, c'est certain. Beaucoup sont fâchés, en fait, des anciens de la politique ou des gens qui travaillent très près de la politique, du comportement de Marois Risky puis de la décision qu'elle a prise dans le dos de Pablo Rodriguez quand c'était pas nécessairement dans ses fonctions de le faire. Par contre, quand on va voir dans l'opinion publique, puis nous, on est bien placés pour lire les textos des gens et tout ça, on se rend compte qu'il y en a qui se disent « OK, mais est-ce qu'elle avait peut-être des informations que plusieurs n'ont pas et que c'est pour ça qu'elle a pris cette décision-là, puis elle ne pouvait pas le faire sans se permettre de passer par-dessus Pablo Rodriguez parce qu'il était impliqué. Puis avec la journée d'aujourd'hui, ça vient un peu corroborer les spéculations de certains auditeurs. Écoute, on a très peu d'informations, on ne sait pas qui dit vrai non plus, mais c'est à se demander si elle n'avait pas le choix de passer par-dessus Pablo Rodriguez à un moment.
Bien, c'est pour ça que c'est important d'avoir sa version des faits. Parce qu'on se demande, c'est quoi la raison pour laquelle elle n'a pas informé le chef? Et évidemment, une des hypothèses de ça, c'est qu'effectivement, le chef étant si impliqué personnellement, comme c'était son ancienne chef de cabinet dans son ancienne vie quand il était ministre au fédéral, peut-être qu'elle se disait, il n'existe pas un monde dans lequel je l'informe en amont, il ne voudra jamais accepter cette décision-là, donc je n'ai pas le choix de faire cavalier seul. Mais pour prendre un risque de cette envergure-là, pour une fille qui ne se représente pas en 2026, pour une fille qui est tellement aimée de la population québécoise et qui pouvait juste surfer jusqu'en octobre 2026, pas trop faire de vagues et quitter la tête haute, de prendre ce risque gigantesque-là en sachant très bien, encore une fois, elle est chevronnée, quelles seraient les conséquences de passer par-dessus la tête de son chef. Pour moi, effectivement, Pascal, j'en comprends pas, puis il n'existe pas un monde dans lequel elle n'a pas une information grave et importante que les autres n'avaient pas pour agir de la sorte. Je peux pas croire qu'elle a joué aussi gros simplement pour un conflit de personnalité avec la directrice.
C'est exactement ce que je pense. Moi, je pense qu'elle a une bombe entre les mains parce qu'elle est accompagnée d'avocats et... T'sais, Marois Risky, là, je vais prendre pour les deux partis là, qu'on connaît le plus, le Parti québécois puis le Parti libéral. Marois Risky, elle est tatouée rouge. Puis quand t'es tatoué rouge, Parti libéral, comme quand t'es tatoué bleu, PQ, ce que tu veux avant tout, c'est la santé de ton parti. Et là, j'ai l'impression que elle ne pouvait pas continuer à fermer les yeux et voir son parti dépérir plus tard. Elle a dit « Je vais prendre la balle au bon ». Puis je vais enfin enlever ce qui traîne dans mon parti qui sent mauvais. Là.
Ben c'est ça. Moi, c'est la seule hypothèse qui, pour l'instant, là, encore une fois, on est en attente de quelconque forme d'information. Encore une fois, tout le monde nie tout. Il n'y a aucune autre hypothèse qui fait du sens pour moi que celle-là, JF, de dire il y a quelque chose de grave qui s'est produit, qu'elle n'était pas en mesure de cautionner, parce que c'est une femme issue du milieu du droit, c'est une femme qui est très droite. Elle l'a prouvé à de multiples reprises. Et là, dans la rencontre avec le chef, moi, ce qu'on m'a communiqué comme information, c'est que ça a été une rencontre de 10 minutes où il s'est pratiquement rien dit. Là. Marois est arrivé avec son avocat et c'était... J'étais avec mon avocat, je peux pas vous en dire plus, voici ce qui s'est passé. Puis il n'y a pas grand-chose qui s'est dit là à part... Je peux pas parler, puis c'est pour ça que mon avocat est avec moi, etc., etc. L'autre chose aussi, c'est que elle était très populaire, Marois, elle est encore très populaire auprès de la population. C'est évidemment ce qui fait énormément mal. Il y a Marois, il y a évidemment la réputation du Parti libéral et le lien qui est facilement faisable avec les anciens scandales. Ces deux éléments-là font énormément mal, mais à l'intérieur du caucus, sachez, messieurs, dames, que c'était quand même pas une personnalité qui, disons, plaisait à tous. Évidemment, c'est une femme qui avait beaucoup d'exposure, qui avait beaucoup de lumière, beaucoup de visibilité, quelqu'un qui avait beaucoup d'envergure. Et moi, à avoir parlé avec certains membres à l'interne, je pense qu'il y a des gens qui commençaient à trouver qu'elle prenait pas mal de place et que malgré son titre de chef parlementaire, qu'elle se permettait parfois d'agir trop souvent comme la chef tout court. Et que ça commençait à déranger. Alors voilà, ça c'est un peu le insight.
Oui, on a ça aussi comme information. Puis tu sais, ce serait très décevant. Puis honnêtement, elle jouerait un peu sa carrière politique si elle sortait rien. Si c'était pas grand-chose en fait qui ressortait de tout cet événement-là. Puis tu sais, on le met encore au singulier, mais ça peut devenir de ces événements-là en fait, parce que ça commence à tomber, là, les tuiles. Je pense qu'elle perdrait énormément de crédibilité. T'sais, elle perdrait cette aura-là de bonne politicienne, peu importe le parti dans lequel elle fait partie. J'ai l'impression que les gens la jugeaient pour qui elle était en tant que politicienne et non dans quelle formation elle évoluait. C'est rare qu'on voit ça en politique. Là, c'est quand tu l'as, tu veux le conserver un peu, là, cette aura-là. Si c'est rien, elle risque de le perdre. Qu'est-ce que tu penses de Pablo Rodriguez? Que Jeff et moi, on a essayé d'analyser son point de presse. Jeff était plutôt de la position que son leadership était manquant. Il n'était pas super en selle. Moi, il m'a presque convaincu qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait là, actuellement. Il est resté concis, direct, et ça a été très court comme point de presse. Tu évalues ça comment, toi?
Ben, j'évalue ça de la même façon que toi. Moi, si j'étais son responsable des communications, écoute, tu sais, la fameuse expression « toute vérité finit par se savoir », là. Tu sais juste pas par qui puis quand, j'y crois foncièrement, là. Toute vérité finit par se savoir. Et donc, si j'étais son responsable des communications et qu'il y avait quelconque forme d'information qui était « out there », là, qui était entre les mains de quelqu'un, il faut absolument mettre ça sur la table. Là, parce que là, effectivement, c'est sa carrière politique qui est dans la balance. Et s'il fallait que des preuves tangibles sortent qui démontrent qu'il était au courant ou que le parti était au courant, c'est ciao bye mon cowboy.
Mais le crois-tu dans le point de presse? Tu le crois-tu? La manière dont c'est...
J'ai pas le choix de le croire parce que, comme je te dis, moi, si j'étais son responsable de communication, je dirais « Hey, mon gars, qu'est-ce que tu sais? » Qu'est-ce que tu sais?
Il va le dire.
Si tu sais de quoi, on va le sortir maintenant, puis oui. On va te protéger, toi.
Tu le dirais de même.
Y a d'autres députés, tu sais, je veux dire, s'il y a d'autres députés qui ont de l'information, si Marois a de l'information, si telle autre personne qui n'est pas Pablo a de l'information, bien, tu as toujours l'option en tant que stratège de dire, bien, on va jeter cette personne-là en dessous de l'autobus, tu sais. Ouais. Si la députée est dans le coin de Laval, la députée libérale qui aurait échangé les textos, effectivement, est derrière ça, puis Pablo a été mis au courant, puis il y a quelque part une information qui démontre qu'il a été mis au courant, un courriel, un texto, whatever, bien là, il faut absolument que tu rendes ça disponible, puis c'est plate, là, mais la députée t'ajoute en dessous du bus pour protéger, évidemment, la réputation du chef. Mais là, si le chef va aussi loin jusqu'à dire, écoute, 1, 2, 3, allégation, 1, 2, 3, tout est faux, ben mon gars, j'espère qu'il dit la vérité, parce que comme je vous disais, ça va finir par se savoir, c'est effectivement pas vrai. Ciao, bye, mon cowboy.
Moi, il m'a pas convaincu. J'aurais voulu qu'il frappe sur le lutrin, qu'il dise écoutez-moi bien, c'est moi le chef, puis il n'y en a pas de corruption au Parti libéral.
Ah, je pense qu'il fait bien de rester calme. Je pense qu'il fait bien de rester calme. Ouais. Là, ça doit être le feu doit être absolument pris présentement. Les députés n'ont pas de réponse. Ils voient ça sortir, ça sort dans les médias, les textos, bing bang. Non, non, je pense qu'il fait bien d'être très calme. Mais encore une fois, j'espère pour lui qu'il est calme et que ce qu'il dit est la vérité parce que...
Oui, oui.
Parce que,
c'est fini pour lui aussi, politiquement parlant, si c'est faux.
Écoute, puis ça serait un recul, écoute, ça serait un recul immense pour le Parti libéral. Ça fait 10 ans que ce parti-là essaie de revenir, puis se détacher de cette réputation-là que la commission Charbonneau lui a collée, de parti qui faisait des manigances au niveau du financement politique. Ça fait 10 ans, Philippe Couillard avait quand même réussi à éloigner le parti de cette réputation-là, mais s'il fallait revenir là-dedans, écoute, non seulement ce serait catastrophique pour le Parti libéral, mais messieurs, dames, ça vient complètement changer la dynamique pour les élections de 2026. Complètement, là. Les gens qui ne pensaient pas voter PQ, ne veulent pas de référendum, pensaient voter libéral et ils disent « je ne veux pas voter libéral », ils vont voter pour qui? La CAQ! Mais non, ils sont écœurés de la CAQ. QS, c'est bien trop loin. Parti conservateur? Peut-être.
Peut-être. Ah, fait que là, tu vois une opportunité pour le Parti conservateur, là, Lambert.
Ben, il y a quelqu'un qui va devoir gagner quelque part. Si,
c'est clair.
Même avant que ce soit avoué puis qu'on ait les réponses à toutes nos questions, présentement, que je sois là en train de vous en parler, qu'on en discute sur toutes les tribunes, qu'il y a une éclipse médiatique qui associe Parti libéral à la corruption, c'est hyper dommageable.
C'est déjà volatile, là, au niveau des votes. On parle avec Lambert Drainville, on parle avec lui à chaque mercredi aux alentours de 13h, l'émission d'En Jase. Et les vendredis, c'est le segment de débat avec Farnel Morisset à compter de midi. Lambert, on passe d'un parti libéral à un autre, c'est-à-dire les libéraux fédéraux, qui ont réussi à faire adopter le budget avec une couple de personnes qui avaient quelque chose d'autre à faire que de voter pour un budget. Là. Bon, un
classique. Les as-tu vu? Ils étaient cachés derrière les rideaux.
Non! J'ai vu
ils ont pas pogné? Je vais t'envoyer la clip de ça.
Oh, ouais, moi ça!
Andrew Scheer puis le autre député, les deux députés conservateurs dans le fond. Que le budget passe, tes voix sont derrière les députés comme des rideaux, puis tes voix dans le crack du rideau, ils se promènent, puis ils
ben non! Quel mauvais théâtre d'été! Pierre Poilievre, il n'y a pas juste son leadership qui est remis en question, son talent de metteur en scène aussi, là, ça n'a pas de bon sens! Commande, Pierre!
En même temps, tout le monde est un peu au courant, c'est un secret de polichinelle, fait que tu assumes que c'est un secret de polichinelle, ça en est juste drôle, si tu veux mon avis. Mais moi, je trouve que Jeff, c'est une opportunité manquée pour le Parti libéral. Parce que moi, là, je me disais les derniers jours, moi, j'avais aucun doute que ce budget-là passerait parce que les partis de l'opposition, dans ce cas-ci, le NPD et le Parti conservateur, allaient se garder une petite gêne. Certains des élus n'allaient pas se présenter pour permettre au budget de passer parce qu'aucun des trois partis veut aller en élection. Tu sais, un gouvernement minoritaire, ça dure en moyenne de 12 à 18 mois. Là, ça fait déjà 6 mois que Carney est là. Fait qu'on peut penser qu'il lui reste entre 6 et 12 mois avant la prochaine élection, si on se fie à la moyenne de combien de temps un gouvernement minoritaire dure. Tu regardais les sondages cette semaine, Carney, 52% des gens sont favorables à Carney, 39% défavorables. Donc, il est plus 13 dans l'opinion publique. Poilievre, 60% des gens qui lui sont défavorables et 34% favorables. Et ça ne va pas dans le bon sens. Plus ça avance, moins il y a de gens qui sont favorables à Pierre Poilievre. Il est à moins 26 dans le Angus Reid il y a quelques jours.
C'est 39 de différence quand tu prends les écarts.
Exact. C'est fou. Fait que tu te dis, le NPD n'ont pas d'argent, n'ont même pas de chef. Fait qu'ils sont certainement pas prêts pour aller en campagne électorale. Le Bloc ont un chef, mais on sait qu'ils n'ont pas énormément d'argent. Et le Parti conservateur ont un chef hyper impopulaire. Puis on sait que eux autres aussi, il y a de la cohésion au niveau du caucus. Si on parlait du Parti libéral du Québec, bien, au Parti conservateur du Canada aussi, on sait que c'est difficile. Tu as les députés qui ont quitté, qui pensent à quitter. Et donc, moi, je comprends pas. Moi, si j'avais été un stratège libéral, j'aurais dit à Carney, regarde, publiquement, les trois partis sont sortis puis ont dit, il y a telle affaire qu'on n'aime pas, on n'appuiera pas le budget, blablabla. Et même si on savait qu'il allait finalement faire des petites passe-passe pour que ça passe, ben moi, je serais sorti d'avance, en amont. Puis j'aurais dit, Mark Carney, t'envoies le pays en élection, puis tu dis, écoutez, chers concitoyens, mon budget, c'est le plus gros déficit que le Canada a jamais vu. Et les autres partis ont annoncé leur couleur. Ils disent qu'ils voteront pas pour. Donc, au lieu de le voir se faire battre, ben moi, j'envoie de façon préemptive le pays en élection et je vous demande de voter sur mon budget parce que j'ai besoin des reins solides pour combattre Trump.
Mais penses-tu que ça aurait fonctionné avec ce déficit record-là et la guerre tarifaire qui n'est pas réglée avec les États-Unis? On dirait que j'ai des doutes, moi, sur cette stratégie-là.
Mais il y a toujours un risque quand tu pars en campagne électorale qu'il arrive une twist et que ça vire mal. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, est-ce que selon toi, c'est... je vais te renvoyer la question, est-ce que selon toi, c'est possible, considérant que M. Carney est un peu sur encore sur sa... la fin de sa lune de miel puis que tranquillement, ça commence à descendre? Est-ce que ça va aller en montant ou en baissant?
En effet, c'est sûr que quand je voyais les taux d'approbation au Québec et en Ontario, il y avait une bonne possibilité de majorité. Là, je me range derrière toi là-dessus.
Exact. Fait que moi, je me dis, il aurait dû prendre une page du livre de Doug Ford en Ontario qui avait déclenché les élections quand ça commençait à brasser avec Trump pour dire, ben, ça brasse avec Trump, j'ai besoin d'un mandat fort, j'ai besoin que les Ontariens votent pour moi, puis il avait déclenché les élections plus tôt. Ça avait été extrêmement favorable pour lui. Si j'avais été stratège libéral, j'aurais fait la même chose.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça se calme après Noël, tout ça? Parce que j'ai l'impression que les valves sont ouvertes dans tous les paliers politiques de gouvernement en ce moment. Puis on fait un petit clin, puis j'ai pas envie d'en avoir ce constat-là, mais dans la façon dont on gère nos choses, on n'a pas l'impression qu'on ait deux mains sur le volant, si je peux reprendre l'expression.
Je comprends pas, Pascal, si tu veux préciser ta
le
pensée.
Le Québec, là, en ce moment, autant au provincial que dans l'apparence au fédéral, que même dans l'apparence avec les États-Unis, on fait un peu victime, là. T'sais, c'est comme si on n'avait pas les mains sur le volant, sur la façon dont on va se démerder là-dedans, qu'on va continuer à avancer. Puis je me demande à quel moment ça va arriver à terme, ça. Cette façon-là de voir les choses, qu'on n'a pas les deux mains sur le volant.
Ben depuis le début, je pense qu'on est tout le monde est au courant qu'on n'a pas les deux mains sur le volant, dans le sens où on fait face à un ancien allié qui est soudainement devenu hostile, les États-Unis évidemment qui font toute notre frontière, qui sont notre premier partenaire commercial, qui sont la première puissance mondiale. Donc depuis le début, on sait qu'on n'a pas toutes les cartes dans notre jeu et depuis le début. C'est ce qui fait d'ailleurs en sorte que Carney demeure avec un taux d'approbation très élevé, malgré qu'il n'ait pas livré sa fameuse promesse de s'entendre avec Trump, parce que les gens comprennent que ce n'est pas un négociateur normal, que c'est un peu un dictateur, mais que c'est en tout cas un autocrate en devenir, que c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour les droits des femmes, pour les droits de la personne, qui n'a aucun respect pour les institutions. Et donc, depuis le début, on est un peu dans cette position-là qui est très délicate d'essayer de pas se le mettre à dos parce que dès que tu dis quelque chose de négatif sur lui, ben il peut t'envoyer une hausse de tarifs dans les dents aussitôt venu. On sait que ce sont des géants comparativement à nous. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Puis, c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs que les Canadiens se sont autant tournés derrière le Parti libéral à un moment où est-ce que plus personne n'y croyait, là, tu sais, le fameux, c'est quoi déjà l'expression, rally around the flag effect, quand ta nation, ton pays est menacé par un ennemi, par une menace étrangère, le réflexe généralement des électeurs, ça va être de se recroqueviller sur le gouvernement en place. Il était le Parti libéral à ce moment-là, très impopulaire sous Justin Trudeau, finalement réussi à rentrer à cause des circonstances et de cet effet-là de rally around the flag, de les gens ont tellement eu peur qu'ils ont dit « Hey, nous autres, on ne changera pas de gouvernement, on va garder le Parti libéral, d'autant plus qu'ils ont un nouveau chef. »
Puis Pierre Poilievre qui avait, à ce moment-là, une aura beaucoup plus de quelqu'un qui conteste et qui divise à la Donald Trump que Mark Carney.
Exact. Puis c'était un moment où les gens ne voulaient pas se diviser, voulaient justement se serrer les coudes. Team Canada... écoute, Pascal, c'est pas une question facile, mais moi je pense que nos gouvernements présentement font ce qu'il y a de font leur gros possible dans le contexte actuel qui est vraiment pas évident. Puis, bon, ben, si tu regardes du côté d'Ottawa, ben, c'est sûr que tu as une situation plus stable que du côté du gouvernement du Québec, là, où est-ce que tu as un gouvernement qui est visiblement très, très usé et des partis de l'opposition qui essayent de prendre le dessus. Mais pour l'instant, tu en as vraiment juste un qui réussit à se positionner comme une alternative, si mon avis.
Disons que c'est une petite marche pour le PQ à présent avec François Legault qui s'accroche au pouvoir à la CAQ et les... présentement ce qui se passe au niveau du Parti libéral du Québec avec ce scandale de peut-être corruption dans l'élection de Pablo Rodríguez.
Sérieusement, là, c'est... je trouve ça... Écoute, c'était tellement sorti de nulle part, là. Ça vient, comme je te dis, complètement changer la dynamique pour les prochains mois. Et voyons voir combien de temps ça dure. Parce que comme tu l'as toi-même dit, il va falloir avoir des réponses rapidement. Ça ne peut pas durer 6 mois, cette affaire-là.
Ah non, non. Le pire pour le Parti libéral, c'est que ça s'étire dans le temps et que la corruption leur colle à la peau encore une fois.
Exact. Il n'y a personne qui va... écouter quoi que ce soit de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont proposer, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la réponse à savoir est-ce qu'ils sont en faute ou pas et qui est en faute.
Il y a deux mots qui collent négativement au Parti libéral du Québec, c'est austérité et corruption. Fait que là, il y en a un qui est revenu dans l'actualité.
Oui, c'est ça, exactement. Hey, restons avec les deux concepts-là.
Laurent Vandréville, toujours un plaisir, mon ami. On se reparle vendredi dans le segment débat avec Farnel Morisset dès midi à l'émission L'en jase.
Ouais, toujours très le fun, la gang.
Salut, mon chum. Bonne journée. C'était Lambert Drainville, ex-stratège, justement, pour la CAQ, pour le Bloc québécois également. Donc, toujours intéressant d'avoir son avis de l'intérieur. Pascal, je te propose qu'on fasse une pause. Après ça, tu sais, quand je te parlais de leadership de Pablo Rodríguez, ben, je vais te faire entendre Patrick Royal. Derrière le banc des Islanders.
Ben là, il a pété une coche.
Je vais te montrer mon genre. Leader. Je vais te montrer mon homme qui défend sa gang.
Je comprends pourquoi on n'a pas la même vision.
Un point sur l'utrin. Je vais te faire entendre ça.
OK.
Tu vas capoter. Tu vas dire, Jeff, j'étais avec toi.
Je sais pas. Moi, le premier point de ça, j'étais comme, ben là, on se calme sur Roy.
Tu vas dire, Patrick.
Patrick Roy.
On là. S'ennuie tellement de Patrick,
Patrick
à Roy.
On respire. Moi, on respire. Là. On peut se montrer grand leader, puis sanguin d'une autre manière, qui a foutu un point sur l'utrin, mais bon. Mm-hmm.
Je dois te faire entendre ça. Il y a une première aussi dans la Ligue nationale hier qui s'est produite en 80 ans, et ça concerne deux joueurs canadiens, deux jeunes joueurs de hockey canadiens. Je te parle de ça après la pause. Puis je pense que toi, tu veux me parler liquidation extrême. Qu'est-ce que c'est qui donc ça, liquidation
extrême? Est-ce que vous en souvenez de liquidation extrême puis des manifestations puis des gens qui se disent flouer? On a du nouveau.
Oui, puis je veux que tu me parles aussi de la remise du chèque hier. Moi, je veux savoir le montant. Va falloir que tu nous dévoiles ça après la pause.
Avec plaisir.
Excellent! Vous êtes à l'émission L'en jase sur Boulevard 101. Ah, oh, ça passe beaucoup trop vite, ce show-là, Pascal Cévé. Il est déjà 13h44, imagine-toi donc. C'est le retour de Gravel. Denis Audrey et Véro qui sont présents aujourd'hui pour vous, qui va suivre. C'est vrai, on va être en pause pendant ce temps-là, mais il faut le dire, 13h55, là, il y a une espèce d'alerte partout. Hein?
Oui, c'est ça. C'est en fait des tests qu'on fait par rapport à ce que vous avez habituellement sur des alertes, hein, quand il y a des disparitions, il y a en fait des choses extrêmes qui puissent se passer, tout ça. Alors, ne soyez pas surpris.
En plein ça. Pascal Cévé, c'est l'heure de parler de lutte, de combat de lutte, parce que c'est vendredi qu'on lutte pour la fin avec la NSPW.
Oui, puis on est bien contents de cet événement-là. En fait, on essaie de faire quelque chose qui allait, un, vous tenter, deux, vous faire déplacer, puis surtout qui allait pour une bonne cause. Puis ça fait 2 ans que Yann Marceau a décidé de faire ça pour la bouchée généreuse. Puis finalement, c'est devenu comme un travail d'équipe. Oui. On est bien, bien fiers de vous inviter vendredi au gala de lutte. Alors, 21 novembre, les billets sont à 20 $ seulement, puis les profits, tous les profits s'en vont directement à la bouchée généreuse, qui nourrit des familles d'ici de façon quotidienne, parce que chaque semaine, tu peux aller chercher ton panier si tu as besoin de cette aide-là. Puis je vais te dire une affaire, Jeff, quand on a fait du bénévolat, on l'a vu, hein, à quel point ce visage-là de la nécessité alimentaire, de l'aide alimentaire a changé. On parle pas nécessairement de quelqu'un qui travaille pas ou quoi que ce soit, on parle de parents qui travaillent 40 heures semaine chacun pour essayer
puis
qui arrivent pas pour nourrir leur famille. Donc, on vous invite vraiment vendredi à être au Centre Horizon avec nous. Puis c'est Yannick Marceau qui affronte Virginie Gagnon, qui est collaboratrice à TVA, en fait, journaliste à TVA. Donc ça va être toute une soirée. La pierre est à 3$ et tous les profits, comme on vous dit, c'est à la bouchée généreuse.
Le champion de la NSPW, Michel Plante, qui est avec...
L'aime.
Qui est avec Yannick Marceau, donc on l'aime. Certains, ça me fait penser, j'ai vu ça, Alejandro Kirk, l'ancien... le receveur actuel des Jays de Toronto, qui vient de signer une prolongation de contrat, je vais de mémoire, de 4 ans, a fait un don de 600 000 $ aux banques alimentaires à Toronto pour que les enfants dans les écoles mangent. Il a dit aucun enfant ne devrait arriver à l'école le ventre vide.
Ah, j'aime ça.
Donc, il a pris une partie de son salaire avec sa femme. Il a dit, et voilà, regardez, dans le fond, il a parlé aux commissions scolaires en Ontario. Ils ont dit, c'est 600 000 que ça prendrait. Parfait. Voilà le chèque, les amis. Moi, je viens de signer pour plus de 10 millions par année. Nourrissez les enfants.
Extraordinaire, ça. 600 000. Puis, tu sais, 600 000, là, souvent, quand tu en donnes comme ça, des organismes peuvent doubler les choses, essayer de s'arranger avec des entreprises. Puis, la bouchée généreuse le fait. Si on ramasse 20 000, par exemple, ça équivaut à 40 000.
C'est ça.
Parce qu'ils ont des ententes avec des grandes surfaces et tout pour, bon, être capable d'en avoir plus pour leur argent, souvent en vendant au prix cost, peu importe. Puis, tu sais, un billet vendu, là, vendredi, automatiquement, c'est au moins deux légumes de plus dans le panier de 25 familles.
C'est wow. C'est juste wow. En plus, ça prend des aliments sains pour les familles qui vont chercher de l'aide alimentaire.
Et vous allez triper. C'est vraiment le fun comme soirée.
Vous allez triper puis vous allez pouvoir crier comme ça.
He's in all kinds of pain. And there is some verbal violence going on from the Islander bench.
Alors, c'est Patrick Roy hier. Je mets dans le contexte. Mikko Rantanen, un joueur des Stars de Dallas, frappe dans le dos Alexander Ramonov, un ancien défenseur du Canadien qui joue pour les Islanders. Mais là, une méchante mise en échec dans le dos, illégale.
OK, Rantanen, c'était illégal, puis c'était cochon.
Rantanen a une punition de 5 minutes. Et là, Ramonov a dû quitter la surface de la glace, accompagné avec des joueurs. Il n'est jamais revenu dans le match. On pense qu'il souffre d'une commotion cérébrale. On attend des nouvelles. Donc, Patrick Roy s'est emporté. Et ce qu'il disait, Mikko Rantanen, c'est la prochaine fois que vous allez jouer contre nous, tu finiras pas la game. Fait que c'est une menace directe de le blesser. Là, Alain Nasreddine, l'entraîneur adjoint des Stars de Dallas, qui est aussi francophone, dit à Patrick Roy, mais voyons, ça n'a pas de sens. Et Patrick Roy, en français, dit, si c'était ton gars, tu aurais fait la même chose. On réécoute, écoutez bien la fin.
He's in all kinds of pain.
Là, il a
and
dit, tu finiras pas la
game. Verbal violence going on from the Islander bench.
Ouais, si ça avait été ton gars, t'aurais fait la même affaire. Donc, Patrick Roy est venu à la défense de son joueur. Imagine dans une arena de 15 000 personnes.
Les gens devaient capoter.
La seule personne qu'on entend crier, c'est Patrick Roy.
Hey, puis il crie, là, ça veut dire extrêmement fort
exactement.
Se faire comprendre.
Pour se faire comprendre, okay. Parce qu'il n'y a pas un micro sur lui. Là. Donc, c'est la captation du match qui fait en sorte qu'on l'entend. Alors, imagine comme il criait « Ça! » Ça, c'est mon leader, Pascal.
Ce gars-là, là, il est tout le temps... Il a toujours été réputé pour être sanguin.
Ben oui.
Pour dépasser les bornes.
Il l'est.
Il n'a pas été aimé partout à cause de ça.
Exactement.
On le comprend en coulisses, puis on le comprend sa glace, très honnêtement. Là où, OK, je ne suis pas 100% contre son intervention, c'est parce que là, c'est dans mesure de la santé d'un joueur.
Exactement.
C'est un coup de cochon qui était clairement voulu, de ce que je comprends, qui était calculé. C'est pas, oh, crime, je t'ai tombé dessus par
non,
erreur.
Non, ben c'est ça exactement. C'est que quand tu donnes une mise en échec dans le dos, normalement, tu arrives et tu as le temps de freiner, puis tu décides de pas freiner puis d'aller frapper le joueur.
Bon, c'est ça. Fait que là, bon, c'est, on peut dire que c'est fait de façon complètement réfléchie et calculée.
Oui.
Il a sauté en gasquette.
Il a protégé ses joueurs.
Oui.
Tu peux être sûr que ses joueurs à l'investisseur ont dit « Head coach est avec nous autres ».
Sauf que, pas beaucoup de maîtrise de soi et de ses émotions.
Non.
Sauf que j'ai l'impression que des fois, dans la Ligue nationale de hockey, il y a des affaires qui passent puis qui ne devraient pas passer.
Mm-hmm.
Puis c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on saute un plomb. Là.
Ben oui, exactement. Donc, c'est ce qui est arrivé avec Patrick Roy hier. Est-ce que vous ennuyez de Patrick à Québec? 418-971-1021. Ben, lui de lui. Moi, regarde, on a un texto qui rentre. Go, Pat, go!
Le clin d'œil, moment unique. Ouais, il y a du monde qui déchire leur chemise car qui?
Lucic, Milan Lucic.
Fait un retour au jeu, mais beaucoup de gens voulaient voir Roy
Patrick
coacher
Roy coacher
Montréal.
À Montréal. OK, oui. Parlant de hockey, écoute bien ceci, Pascal.
Ryan Green down the left side. Goes cross ice. Here's his ice score. Connor Bedard.
Deuxième but du match de Connor Bedard. Un tir dans l'autre du filet incroyable. Mais là, ça ne s'arrêtait pas là.
Bedard making moves. Knocked off a stick. He's able to recover. He'll try it from his own zone for the hat trick. He's got it. Connor Bedard. Second career hat trick.
La jeune sensation de 20 ans des Hawks de Chicago, Pascal. Deuxième tour du chapeau à peu près une semaine. Il est rendu à ses 11 derniers matchs à 11 buts et 21 points. Ça va très bien. Parlant de sensations canadiennes, écoute celui-là.
Back over to Celebrini. Macklin loads up, shoots, and scores! Macklin Celebrini! A game winner and a hat-trick!
Macklin Celebrini, un joueur de 19 ans, canadien, a marqué un tour du chapeau également hier. Mais lui, là, en plus, il a marqué 3 buts de son équipe, dont celui en prolongation. Les Sharks de San Jose ont battu le Mammoth de Utah 3-2. Ben, sache, Pascal, que c'est la première fois en 80 ans que deux joueurs âgés de 20 ans et moins marquent un tour du chapeau dans la même soirée dans la Ligue nationale. C'est malade, hein?
C'est tellement... ça beau quand t'en parles, là, parce que t'es vraiment fier. Puis c'est vrai que 19 ans, je veux dire, ces gars-là, on dirait qu'ils rajeunissent à chaque année, les gars dans la ligue.
Exactement. Donc, les boys ont fait ça. Et là, pourquoi c'est important? C'est parce que les bonzes d'équipe Canada pour les Jeux olympiques, présentement, ils regardent les joueurs canadiens et ils disent « Qui c'est qu'on va bien
rentrer dans notre équipe? »
Okay. Ben oui, parce que c'est au mois de février. Okay. Et là, ces deux gars-là sont en train de forcer la main aux dirigeants d'équipe Canada malgré leur jeune âge. En passant, j'étais avec Julie, elle dit « Oui, on s'ennuie. » C'est très bien l'impact de ces gestes en parlant de Patrick Roy.
Ah ouais.
Dans le moins glamour, Pascal, oui. Je vais te faire entendre quelque chose qu'on avait entendu cet été. Okay? Tu me diras si ça te dit de quoi.
Parce que j'ai décidé que ça allait arrêter de manger la merde puis de mettre ma famille en danger ou peu importe. Et si j'ai 10 documents que je vais remettre aux journalistes, je vais les laisser enquêter, faire leur job. Pour une fois, ça va me servir. Il s'appelle Anthony Saint-Hilaire, OK? Anthony Saint-Hilaire, il m'a approché sur Facebook. Je vous ai mis les... Je viens d'y trouver juste avant de m'en venir. Toutes les messages Messenger qu'il m'a fait, puis comment ça s'est déroulé, OK? Il demande de l'argent, puis
mais qui est cet homme, Pascal CV? Qui est-il?
Bon, il est dans toute cette polémique de liquidation extrême.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui se disaient floués par l'entreprise, comme qu'on a fait des dépôts, puis on a perdu les dépôts, on n'a jamais reçu la marchandise, etc. Ça a été très, très long, tellement qu'au départ, on se disait, bon, qui dit vrai? T'avais des papiers sur table. Finalement, il y a une annonce importante, enfin, une mise au point qui a été faite par l'entreprise sur sa page Facebook aujourd'hui. Ils seront dans le Journal de Québec, il paraît, demain. Comme quoi, les journalistes sont encore sur le cas. On a contacté l'entreprise PFACTO, les poursuites en justice concernant les événements récents et les sites Internet qui vont devoir rembourser. Bon, ils disent, c'est pas un problème, on va rembourser tous les montants dus et on va s'occuper de la situation. Liquidation extrême garde son nom, ses activités, toutes les dettes accumulées ou les montants non payés sont pratiquement à jour. Ils ont déjà remboursé entre 70% et 75% des clients. Ils disent qu'ils sont sur la bonne voie. Il ne faut pas s'inquiéter. Ils savent que la situation allait faire surface. Beaucoup vont en parler, mais c'est un point qu'ils disent gérer et qu'ils assument pleinement. Alors, ils vont régler en temps voulu. Ils disent que ce n'est pas une faillite de ne pas s'inquiéter, mais c'est assurément, l'entreprise a perdu beaucoup de crédibilité là-dedans. Là.
Exactement. Donc, dossier à suivre demain dans le Journal de Québec. Évidemment, on va vous tenir au courant, autant dans l'émission d'Angers de midi qu'à Marceau le matin, à compter de 6 heures. Pascal, avant que l'alarme arrive, puis nous anéantissent. Je te souhaite une excellente après-midi.
Ben merci.
Mais je veux savoir avant ça. C'était quoi le montant hier?
120 000 $ qu'on a remis hier à la Fondation Cerveau pour la santé mentale et la santé du cerveau. Donc, tout ce qui est santé mentale, problème de troubles de santé mentale, mais aussi maladie du cerveau, Parkinson, etc. Donc, pour la gang du Kilimanjaro, genre de défi, genre de cœur, c'est 120 000 $ officiellement.
Vous êtes extraordinaire. Merci de changer la vie d'autant de personnes.
Merci à vous tous. Vous avez tous été derrière nous. Beaucoup de donateurs, des auditeurs aussi. Je t'ai eu entre autres Stéphane. C'est des gens qui nous ont permis, en fait, d'accomplir et de boucler la boucle hier, cette belle mission-là de ramasser des fonds pour cerveau.
Magique. Le retour de Gravel suit à l'instant même avec Denis.